Bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1, l'émission On en jase, votre émission du midi sur Boulevard depuis le mois de septembre. Midi, une minute exactement. Il y a eu la belle petite neige blanche qui a tombé tout à l'heure. Peut-être qu'il y en aura un petit peu d'autres aujourd'hui. Bref, on se sent comme dans le temps des fêtes, mais c'est les vendredis fous. Si vous voulez profiter de plein de rabais, allez chez votre commerçant préféré. On a eu passe-temps 3000 ce matin. Dans Marceau le matin, il y a des rabais jusqu'à 25%. Des rabais jusqu'à 50% au 7e ciel. On a reçu Mel Tessier du 7e ciel. Hé, Seigneur, que c'est le temps de magasiner, les amis. Marc de passant 3000 nous a dit, là, mon backstore est full. Je peux même plus recevoir de livraison pour mon magasin déborde. Venez vider le magasin en fin de semaine pour qu'on mette des jeux qui sont présentement dans l'entrepôt, dans le magasin, et qu'on remplisse l'entrepôt pour Noël. C'est-tu pas beau, ça? Pascal CV, comment vas-tu?
Ça va très bien. Meilleure période, meilleure journée de l'année pour acheter vos cadeaux de Noël. Si vous voulez économiser,
ça, oui.
C'est aujourd'hui que ça se fait.
Oui, il y aura ça, puis il va y avoir le Cyber Monday.
Ouais.
Qui va pouvoir, mais c'est plus fun d'y aller en personne. Jaser avec le monde.
Aller encourager nos commerces d'ici. Des
exactement.
Fois, tu vois quelque chose qui est en rabais à quelque part, mettons, je le dirais Amazon, mais tu te rends compte finalement qu'il l'a dans ton commerce à côté de proximité,
oui.
Au même prix. Ça demande deux clics de plus, mais t'économises la même chose, puis t'encourages les gens d'ici.
Exactement, on achète local, guys. C'est très, 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 très important. On a avec nous en studio Farnel Morisset. Farnel, comment vas-tu?
Je vais très bien.
Ouais.
Je suis très content de la belle petite neige qui est tombée tantôt. Je suis content qu'il y en ait plus qui tombe maintenant aussi.
Ouais, parce que là, tu t'en vas à la Pocatière, toi,
ouais,
là, mon
je m'en
ami.
Vais. C'est ça, je vais faire un tour au cégep de la Pocatière. Je suis vraiment excité. C'est toujours un peu le fun sortir de Québec pour rencontrer des gens qui font des choses excitantes ailleurs. Alors, c'est ce que je vais faire en fin de journée aujourd'hui.
Monsieur le conférencier, tiens.
Ah, ouais. J'aimerais tout ça assister à une conférence de Farnel. Ça doit être tellement.
Toi, t'as la personne, toi, Ismaël, en
c'est
studio.
Ça,
c'est ça.
Tu
as raison. Il est en studio avec nous mercredi. Il est présentement à Montréal, notre chroniqueur qu'on adore, Lambert Drainville. Comment ça va, mon chum?
Ça va bien, vous autres?
Ça va super bien. Les gars, le segment débat Farnel-Lambert du vendredi à midi. Pascal, on est prêt. Tu sonnes la cloche.
Ding, 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 ding. Ça part.
Let's go, ça part. On commence avec le départ de Stephen Guilbeault du Conseil des ministres. Et avant d'en parler, je veux vous faire entendre ce que François-Philippe Champagne a dit à cet effet-là. Et ce qu'il a dit surtout en parlant des deux pas au niveau du gouvernement canadien, c'est-à-dire l'économie et l'environnement. On écoute ça et par la suite, on débute le débat. Farnel Morisset, pas certain qu'hier, avec ce qui a été annoncé pour l'oléoduc en Alberta, qu'on pense vraiment que les changements climatiques, c'est l'enjeu de la prochaine génération.
Ça paraît pas très bien, mettons, je suis d'accord. C'est drôle parce qu'on n'a pas vraiment parlé beaucoup ici, mais à Ottawa, ça brasse beaucoup là-dessus. Je veux dire, le bloc qui sort aussi pour dire nous allons défendre la Colombie-Britannique. Je veux dire, est-ce que c'est le bloc Colombie-Britannique maintenant? Non, mais en tout sérieux, je veux dire, je salue l'importance de justement avoir une représentation régionale qui est assumée là-dessus. Puis c'est quand même, je veux dire, constitutionnellement, le gouvernement du Canada aurait le droit de juste imposer une pipeline à la Colombie-Britannique si elle voulait le faire, mais politiquement, ça se fait plus de même depuis longtemps. Mm-hmm. Puis je pense que cette espèce d'équilibre-là, il n'est pas facile à trouver présentement.
En effet, t'en penses quoi, Lambert, de cet équilibre-là, justement, économie, environnement? Hier, je suis allé souper avec un de mes amis, puis je disais, mais ça me... qu'on est passé d'un extrême à l'autre. On est passé de BAP qui prend 5 ans à faire puis qu'on n'est pas capable de faire de gros projets à, oh yob, l'environnement, on fait tous nos projets. Me trompes-tu?
La différence, c'est qu'avant, c'était pas assumé, puis ben maintenant, ça l'est. Il faut pas se mettre la tête dans le sable. Là. Le Canada, ça a toujours été un État pétrolier, gazier. C'est juste que sous Justin Trudeau, il faisait à tout le moins l'effort de se donner bonne conscience. T'sais. Depuis début des années 2000, l'extraction pétrolière a augmenté de 70% au Canada. Au niveau des cibles, on visait 40% de moins de GES comparativement à 2005 d'ici 2030. Écoute, il y a deux ans, on était juste à 8,5% là, de cet objectif-là sur 40%. Fait qu'on était déjà très loin. Puis la réponse qu'on a eue cette semaine, la réponse qu'on a eue hier, c'est que justement, le Canada va arrêter de faire semblant qu'il n'est pas un État pétrolier. Puis avec Carney, on va l'assumer. Et on va dire bye-bye nécessairement à toutes les cibles climatiques. Fait que c'est bien beau leur discours, c'est bien beau François-Philippe Champagne, mais à un moment donné, Faut arrêter de se mettre la tête dans le sable.
Ça se peut-tu qu'au niveau de l'acceptabilité sociale, ça ait changé aussi un peu avec l'arrivée de Donald Trump, de ses tarifs, du fait qu'on doit développer notre économie, que les gens ils sont un petit peu plus enclins à dire « Ouais, on était bien d'accord avec l'environnement, mais on se rend compte officiellement que l'économie, sans elle, ben, on n'est pas très fort, puis on n'est pas très fort aussi au niveau international. » Ça se peut-tu que cette acceptabilité sociale-là est jouée dans le fait qu'on s'assume plus maintenant au niveau gouvernemental?
Ouais, tu sais, je pense qu'il y a peut-être un gros non-dit dans ce qui se passe présentement, qui est que si on a plus de pipelines qui permettent de sortir le pétrole canadien vers les océans, ça nous achète des options qui ne sont pas les États-Unis. Ça veut dire qu'on pourrait potentiellement, si on vient à négocier un peu plus dur ou si les États-Unis viennent à négocier plus dur avec nous, on pourrait dire bon, ben, on va fermer les valves au pétrole qui vient de l'Alberta chez vous. Les États-Unis en ont besoin, ça nourrit leurs machines pétrolières à eux aussi. Alors, avoir ces options-là, je pense que ça figure peut-être un peu dans la façon de penser des gens, même si c'est sûr qu'au niveau politique, jamais on va faire une affirmation du genre. Ce serait ce qui mettrait le feu aux poudres avec nos relations aux États-Unis à le dire ouvertement. Mais il y a comme un sous-texte de ça, je pense, qui se passe.
Lambert, t'en penses quoi?
Absolument. C'est sûr que la donne a complètement changé. La donne a complètement changé, puis c'est pour ça que c'est plus facile maintenant pour les... Tu sais, puis on l'a vu partout, dans tous les pays en Occident, les reculs sur les mesures environnementales. On l'a vu, évidemment, c'est Trump qui a lancé le bal, mais ça n'a pas été long après que Mark Carney ait été élu, qu'il ait jeté à la poubelle la mesure sur la taxe carbone pour les individus, les quotas obligatoires de vente électrique. Et là, voilà qu'il y va avec l'abolition, avec en fait les mesures restantes des avancées qui avaient été faites sous Justin Trudeau, ben voilà qu'il les jette à la poubelle. Le plafond des émissions pétrolières gazières, le règlement sur l'électricité propre, feu vert à des nouveaux pipelines. Parce que, tu sais, au final, le Canada a toujours été un cancre en matière d'environnement, mais un autre endroit où le Canada est très, très, très mauvais, c'est au niveau de la productivité. Et avec la décision de Mark Carney d'aller de l'avant avec ce pipeline-là puis de mettre en place les mesures pour que ça se réalise, ben on voit qu'il a choisi son combat. Mark Carney va faire de l'économie, de la croissance économique, la diversification des partenaires commerciaux, la hausse de la productivité canadienne, son fer de lance, puis ça va être ça. Les industries, tu sais, des ressources naturelles, là, tout ce qui est pétrole, gaz, mine, là, ce sont parmi les secteurs où chaque heure de travail génère le plus de valeur économique. Alors, plus tu développes ce secteur-là, plus tu fais, ben, en tout cas sur papier, à tout le moins monter la productivité moyenne du pays. Et c'est à ça que Mark Carney s'attaque en allant de l'avant avec ses différents projets. C'est vrai pour celui du pipeline de l'Alberta, mais c'est vrai aussi pour ses autres projets d'envergure nationale dont il parle souvent. Et ben, c'est sûr que pour le ministre Guilbeault, c'était rendu difficile, je pense, de continuer d'avaler les couleuvres après en avoir avalé quand même quelques-unes sous Justin Trudeau, quand on regarde Trans Mountain, quand on regarde le projet Baie du Nord. Il y avait au moins des efforts qui étaient faits à ce niveau-là, mais là, clairement, c'était rendu difficile pour le gars qui était le cofondateur d'Équiterre, qui montait la tour du CN pour la cause environnementale, ben, de dire qu'il pouvait cautionner désormais un nouveau pipeline. Je pense que c'était rendu un petit peu trop fort en café pour lui. Là.
Farnell, pourquoi Stephen Guilbeault reste dans le Parti libéral? Parce que moi, je me dis, s'il claque la porte de son ministère, qu'il claque la porte du parti, mais là, je me dis, est-ce qu'il y a un jeu de coulisses qui s'est fait avec Mark Carney? Parce que Carney est à deux députés d'une majorité, puis il faut pas qu'il en perde.
Ben, je salue le geste de Stephen Guilbeault, même si, je veux dire, on pourrait en parler en long et en large sur l'acceptabilité sociale des pipelines, parce que c'est conséquent avec, de un côté, clairement, ses positions morales à lui, ses convictions très profondes, et aussi avec le parlementarisme. Comment est-ce que c'est supposé fonctionner un parlement? En tant que membre du Conseil des ministres, en tant que ministre, Stephen Guilbeault était tenu à la solidarité ministérielle. Puis ça, c'est un principe qui est, on pourrait dire, quasi constitutionnel. Les ministres ne sont pas supposés publiquement s'afficher contraire à des décisions du gouvernement. Puis ça, c'est un principe qui est quand même super bien établi à travers presque toutes les démocraties de style Westminster comme la nôtre. Parce que, bon, ben c'est pour essayer d'éviter de la bisbille publique et ce qui permet d'avoir une discussion un peu plus franche à l'intérieur du Conseil des ministres. Les ministres sont supposés être très
francs. Derrière les portes closes.
Exactement. Alors, si tu commences à avoir peur que les ministres vont sortir en public après, ben là, tu risques, en tant que toi-même de ministre, de modérer tes propos derrière les portes closes. Ça fait un débat qui est moins bon, des décisions qui sont moins bonnes. Mais les députés sont pas tenus à ça. Les députés, même un député qui est membre du parti politique qui forme le gouvernement, en théorie, est indépendant du gouvernement. En tant que député, tu n'es pas obligé de voter avec ton parti. Tu n'es pas obligé de voter avec le gouvernement si tu es membre du parti qui forme le gouvernement. Il n'y a aucune obligation de le faire dans notre système parlementaire. Alors, c'est parfaitement conséquent avec le parlementarisme aussi de Stephen Guilbeault de dire « Bon, ben, il n'est pas d'accord avec certaines décisions du gouvernement, alors il ne peut plus rester membre du Conseil des ministres. » Mais que dans l'ensemble, il maintient une confiance dans le gouvernement. Alors, même s'il n'est pas d'accord avec certaines décisions ici et là.
Ouais, la portion environnementale
exactement,
de Carney.
Ça ne l'empêche pas d'être un parlementaire complet qui peut prendre une vision d'ensemble et dire ben, « Je suis quand même confortable, j'ai quand même confiance d'ensemble avec le gouvernement. Je vais peut-être voter contre certaines mesures de pipeline maintenant parce qu'il s'est donné le coup des franges pour le faire. »
En effet.
Mais ça ne veut pas nécessairement dire que tu es obligé de, comme tu dis, claquer la porte sur l'ensemble de tes collègues parce que tu as un désaccord avec un sujet politique. Puis d'ailleurs, j'ai pas l'impression, on parle de claquer la porte, mais ça semble pas être quelque chose que M. Guilbeault fait avec énormément d'amertume. Je ressens pas nécessairement de la colère, c'est juste qu'ils ont une différence d'opinion qui ne cadre plus dans ses valeurs, dans ses convictions à lui. Alors, il préfère faire la chose honorable à faire, qui est quitter son poste de ministre pour pouvoir s'exprimer plus librement après.
Non, en effet, ça se fait tout en douceur, puis c'est une différence de philosophie environnementale sur les cibles à atteindre entre ce que Stephen Guilbeault pense et également Mark Carney, les actions de Mark Carney.
C'est dur quand même à ingérer de cette manière-là, puis Lambert, peut-être que tu auras cette vision-là ou pas du tout, mais pour moi, c'est de faire à moitié le pas vers ses convictions. En même temps, est-ce que c'est parce qu'il se dit ben, « je vais finir mon mandat dans le pire des cas puis je vais aller voir ailleurs si j'y suis. » Est-ce que je... Mais je me dis que tu es encore au sein du parti. Puis l'exemple que Max et moi, sur lequel on discutait ce matin, c'est de dire si les Leclerc ici là, font quelque chose qui sont contre mes valeurs, je me dis ben, « moi, publiquement, je ne veux plus être en onde. Mais avez-vous un petit poste en bureau pour... » Tu sais, ça reste que je travaille pour une entreprise peut-être qui ne s'en va pas...
De... Ouais, je comprends ce que tu veux dire.
Sur la même lignée que mes valeurs. Soit je ne le comprends pas, ou soit c'est une vision autre. Mm-hmm.
Lambert, t'en penses quoi?
Ben, il pense peut-être que lui, en restant au sein du caucus, il peut continuer d'avoir une certaine influence sur la suite des choses. Il y a peut-être ça, considérant qu'on entend en coulisses qu'il y a beaucoup, il y a une frange évidemment très progressiste des élus libéraux qui sont vraiment pas contents des nouvelles orientations du parti. Est-ce que Stephen Guilbeault pense pouvoir être un espèce de rassembleur de ces forces-là pour essayer à l'interne de continuer de faire pression sur son gouvernement pour qu'il s'écarte le moins possible, en fait, de sa vision de ce que doivent être les mesures environnementales du Canada pour la suite des choses. Il y a possiblement ça. Il ne faut quand même pas, encore une fois, se mettre la tête dans le sable. Je suis retourné regarder la plateforme électorale, puis on a tous été un petit peu bluffés, possiblement M. Guilbeault aussi, par le discours de Mark Carney dans les derniers mois. C'est quand même quelqu'un qui avait été responsable aux Nations Unies là, de... C'était quoi exactement son titre? Mais il y avait eu un poste aux Nations Unies pour tout ce qui est la transition écologique.
Ouais, développer l'économie verte.
Exact. Mais quand tu regardes la plateforme libérale de la dernière élection, il promettait explicitement de faire du Canada une super puissance énergétique mondiale. Il parlait de trouver un équilibre entre les ressources de l'avenir et les ressources du passé. Ce qui est toujours un peu contradictoire, là. Comment tu fais pour diminuer les émissions de GES tout en continuant d'augmenter la production de pétrole et de gaz? C'est souvent une utopie qui est répétée par les élus libéraux qui fait vraiment aucun sens. Il disait être ouvert en campagne électorale au gazoduc transfrontalier. Il disait être prêt à utiliser les pouvoirs d'urgence fédéraux pour accélérer des nouveaux projets énergétiques. Fait qu'on le savait un petit peu, il avait annoncé ses couleurs, puis maintenant il va de l'avant, puis c'est comme si tout le monde était flabbergasté par ça, mais M. Carney s'est fait élire en tant que, faire de lance de en tout cas en tant que quelqu'un qui allait mettre l'économie canadienne puis la productivité canadienne au haut de sa liste des priorités, puis il prend des décisions dans ce sens-là. Politiquement, maintenant, c'est un geste qui est très risqué. Tu regardes où est-ce qu'il s'est fait élire, ce gars-là. Ben, il a fait élire 44 députés au Québec, 20 députés en Colombie-Britannique. En Alberta, il en a fait élire 2. Fait que, qu'est-ce que ça dit, ça? Ben, ça dit que pour tout le capital économique qu'il espère générer, ça va lui coûter cher en capital politique à M. Carney et semble qu'il soit prêt à vivre avec ça.
Mais est-ce que ça, stratégiquement, ça va lui amener pour une prochaine élection un gouvernement majoritaire? Ça va être à suivre parce que évidemment il y aura des ressacs. Surtout en Colombie-Britannique, je pense qu'il risque d'avoir des ressacs parce que le premier projet de pipeline va passer là, passera pas au Québec. Là.
Mais des ressacs pour aller où? Ces électeurs-là en Colombie-Britannique qui sont pas satisfaits, ils vont aller où, Farnell?
Exactement, vont retourner au NPD parce que Farnell, Lambert, est-ce que vous le saviez? C'est la course à la chefferie.
Oui, mais es-tu convaincant,
l'NPD? Hein?
Ben, tu vois, c'est peut-être course. Mon erreur à moi, mais je tends à oublier dans mon analyse politique que le NPD est encore un parti politique qui aspire au pouvoir.
C'est la course
avec une
à
colonne
la chefferie.
Vertébrale, avec des gens qui peuvent influencer la politique.
Pascal, vous êtes donc bien pessimiste.
Non, on se questionne.
Rob Ashton, Tanil Johnston, Avi Lewis, Eater McPherson... Et Tony McHale était à Montréal
honnêtement,
hier.
Honnêtement, si je savais pas qu'on parlait politique, je pourrais penser qu'on parle de hockey en ce moment.
Ben oui, mais c'est vrai que ça ferait un bon alignement de 5 du Canadien.
En effet, ça sonne comme une première ligne. Ouais. Là, ouais.
Qui sont-ils?
C'est qui a le... C'est Evie Lewis, je pense que son chapeau de cowboy, c'est lui. Je me souviens plus. En tout cas,
non, je pense que c'est Tony McWhale.
C'est Tony McWhale, oui.
C'est l'agriculteur,
oui, qui a son chapeau de cowboy. C'était cœur, hein? Je te le dis, il pourrait se présenter au Texas, mais il est à gauche au Canada dans les NPD. Je comprends pas trop. Mais bref, c'est la course à la chefferie. Alors, je le sais que là, je suis en train d'exciter nos auditeurs. Je le sais que je suis en train de vous exciter parce que vous vous dites, waouh, le NPD a fait un débat hier à Montréal! Au Québec, pour convaincre les électeurs du Québec de voter pour eux. Et pour ça, ils ont parlé. Bien, tout le monde a essayé de parler en français. C'est beau. Ils ont voulu venir nous chercher. Ouais. Alors, 418-971-1021, je veux que vous donniez une note aux députés du NPD qui se présentent pour la chefferie. Je veux que vous leur donniez une note en français. Est-ce qu'ils ont la note de passage? Mais avant, question là, de vous... mettre dans le bain, et c'est Lambert qui nous a envoyé ça, on va écouter l'ancien chef qui avait créé cette vague orange au Québec du NPD, Jack Layton. On écoute son français. Vous êtes prêts, tout le monde? On écoute le français de Jack Layton.
Ministre, quel statut?
Oh, puis, guys, comme français, ça, Jack Layton?
Moi, je le trouve très, très bon. Son français, c'est un français d'un anglophone canadien, mais c'est un français, on n'a aucune preuve. Aucun problème à le comprendre.
Il parle sûrement mieux en français que moi, je parle en anglais. Donc, tu sais, moi, ça me satisfait. Lambert, t'es d'accord?
Son français était excellent, puis il y avait une compréhension aussi de la nation québécoise qu'on n'a pas vue depuis lui chez les candidats à la chefferie ou même chez l'ancien chef Jack Meeting.
En effet, tu as entièrement raison.
Québec, je parle, des réalités du Québec, évidemment.
Oui, le NPD était plus connecté sur les réalités du Québec. Et Jack Layton, d'ailleurs, avait créé cette fameuse vague orange qui avait pratiquement envoyé le Bloc québécois à l'agonie au Québec. Maintenant, on écoute les candidats d'hier. Et là, c'est là, guys, 418-971-1021. Envoyez-nous votre note parce que nous, on va les noter immédiatement après avoir écouté ceci. Je pensais pas que Mark Carney t'ait rendu francophone.
Je me présente. Pensais troisième pas de temps, c'est la meilleure.
Ouais, tu sais, moi, j'approche la situation en tant que quelqu'un qui a déjà vécu ou, disons, je ne parlais pas nécessairement la langue dominante ailleurs. Il y a deux choses qu'il faut séparer ici. Il faut vraiment faire attention à pas rire de quelqu'un parce qu'il ne parle pas parfaitement le français.
C'est difficile parce que c'est quand même quelque chose d'un peu ludique.
Oui, oui.
Sans rire de la personne, ça peut faire rire.
C'est sûr.
La manière dont c'est prononcé.
Mais tu sais, si on veut aimer notre langue, il faut nécessairement aussi aimer ceux qui font un effort de l'apprendre. Et ça commence avec des gens qui la parlent un peu comme ça.
Sans gêner.
Ceci dit, il y a une grosse différence entre aimer quelqu'un qui apprend le français et accepter que quelqu'un qui aspire à mener le pays qui a deux langues officielles, dont le français, dont la langue du peuple québécois, qui est à ce niveau-là quand il est rendu à penser que c'est adéquat et acceptable pour mener le Canada. Alors, tous mes critiques sont très légitimes envers la deuxième catégorie, disons. Là. Je ne pense pas que c'est acceptable que quelqu'un qui aspire à être premier ministre du Canada ne parle pas un français beaucoup plus développé que ça. Mais je nous cautionne tous. Il y a bien des gens qui vont écouter ça qui n'ont pas un français parfait non plus. Là. Alors, je veux tous dire à ces personnes-là, on vous aime, on vous appuie dans votre apprentissage du français. C'est juste qu'on considère que si on veut mener le pays, il faut le parler et pas être en train d'apprendre.
On dirait que Farnell est en train de faire un discours aux gens gens qui veulent voter oui pour le référendum, on vous aime.
On vous aime.
On vous aime.
Oui, on
a. Lambert, là, t'as dit plusieurs fois, attends, ben let's go, vas-y. Qu'est-ce que t'avais derrière la tête?
Non, mais là, parce qu'il y a une différence aussi entre, tu sais, démontrer un intérêt envers l'apprentissage du français, de faire des efforts malgré un français très, très boiteux, et soudainement se présenter à la chefferie d'un parti national et du jour au lendemain, parce que tu te présentes comme candidat à la chefferie de ce parti-là et potentiellement éventuel premier ministre ou première ministre, de là soudainement te rendre compte que « Ah ben tabarouette, je m'en suis sacré du français pendant… » Ben pour certains d'entre eux, ils ont comme 72 ans, là, ou ils sont assez âgés. Je m'en suis sacré pendant toutes ces années-là. Puis là, maintenant que je suis dans un poste où je veux aspirer à devenir premier ministre, ben là, soudainement, ça devient important. Tu sais, niaisez-nous pas. Ce que ça démontre, c'est qu'il y a autant sur la... Puis là, pour ça, je me concentrerai pas juste sur la forme, parce que la forme est absolument épouvantable, on vient de l'entendre. Donc, sur la forme, aucune sensibilité envers le fait français, aucune sensibilité envers les intérêts de la nation québécoise, et ça s'est concrétisé dans les commentaires des différents candidats aussi sur les enjeux québécois. Ils se sont fait questionner notamment sur le projet de loi 9, sur le renforcement de la laïcité au Québec. Madame McPherson, qui est la seule députée élue à se présenter pour être chef, a dit que c'était terrible la laïcité, que c'était une attaque contre les droits des femmes, contre les droits des femmes musulmanes. On se rappelle que la laïcité fait plutôt consensus au Québec. M. Lewis, même chose, a dit que c'était inacceptable. Bref, il ne faut pas être dupe. Là. Moi, je suis d'accord avec Farnell. Je salue quiconque souhaite apprendre le français. Malheureusement, pour le Canada anglais, on a toujours l'impression, que ce soit à travers, quand on a vu l'exemple de Michael Rousseau, PDG d'Air Canada, quand on a vu la nomination de la gouverneure générale qui ne parle pas français du tout, qui a dit qu'elle allait l'apprendre et qu'il ne le parle toujours pas, M. Rousseau ne le parle toujours pas, les anglophones qui aspirent à des postes importants au Canada se découvrent une sensibilité envers la langue française qu'une fois et uniquement lorsqu'ils sont dans une position où c'est absolument nécessaire pour eux de l'avoir. Fait qu'en tout cas, tu sais...
Moi, je vais vous le dire bien honnêtement, puis je te le dis à toi aussi, Pascal, c'est vrai. Je t'en grogne. Je déteste le fait que un parti politique canadien où il y a deux langues officielles ne nous présente pas quelqu'un qui est capable de mieux parler français que ça. Je trouve que c'est une atteinte à notre culture. Je trouve que c'est une atteinte à notre Québec. Là,
mais
je vais parler comme
un peu un miroir de ce qui se passe de l'autre côté de notre frontière, dans le sens où le français, est-ce qu'il est enseigné comme il se devrait en deuxième langue seconde? Est-ce qu'on y donne assez d'attention? Est-ce qu'il est assez intéressant aussi sur le marché? Tu sais, toutes les nouvelles générations, les plus jeunes, là, pour eux, l'anglais est hautement plus important parce que c'est ça qui va leur servir au niveau professionnel, qui va leur servir dans leur culture, qui vont leur... Tu sais, on peut pas ne pas avoir ça en tête, bien qu'on souhaite défendre le français. Moi, j'en suis une qui l'apprécie, qui l'adore. J'aime ça encore écouter mes choses en français. J'aime ça encore écouter, ben, peut-être pas avec toutes les traductions, là, mais il y a beaucoup de contenu quand même francophone. Puis j'aime ça lire en français. Mais je pense que je fais partie de cette dernière génération-là qui a eu des semi-cours d'anglais, là, acceptables et pas. Mais il faut regarder ce qui s'en vient. Il faut regarder l'importance que le français a aussi de l'autre côté de la frontière. Puis, tu sais, tu voyages un peu. Puis, aussitôt que tu dis que tu viens du Canada, ils sont comme, me semble que ton anglais. Oui. I'm from Quebec City, the French part of Canada. OK. Même à l'étranger, soit aux États-Unis, c'est pas tant connu que le Québec où on parle français. Mm-hmm. Est-ce qu'on a donné assez d'importance à ça? La question se pose.
Ben moi, la question que je me pose, puis je pense que le NPD va devoir se le poser aussi, c'est est-ce que le NPD aspire réellement encore à être un parti pan-canadien? Parce que, je veux dire, on le voit, là, il semble avoir un peu plus d'intérêt pour une représentation régionale. Je veux dire, le Parti conservateur a un peu misé là-dessus, mais le Parti conservateur qui, lui, aspire à être pan-canadien, ne peut pas miser pleinement là-dessus. Tu parlais, par exemple, d'un candidat avec un beau chapeau de cow-boy. Faut pas oublier que le NPD a commencé comme étant un parti de travailleurs de l'Ouest canadien.
Non, je savais pas ça, c'est intéressant.
À l'origine, le NPD, c'était ça. C'était un parti rural, travailleur, progressiste, quand la gauche était largement un mouvement social d'ouvriers qui se mettaient ensemble pour pouvoir faire un contrepoids au pouvoir financier qui venait largement des villes. Peut-être que le NPD se recentre un peu sur ça. Et moi, je ne prendrais pas pour acquis nécessairement les militants auront à le dire, que le NPD veut réellement être encore un parti de tous les Canadiens partout, ou si c'est
veut
plutôt
ou
un parti...
Concentre.
Ou peut-être qu'ils se concentrent. Ouais, je pense qu'il y a, je pense pas qu'on va avoir des gens de NPD qui vont l'avouer ouvertement, mais certainement, ils vont beaucoup plus se concentrer là où ils ont encore certaines assises, je pense.
Et là, justement, peut-être essayer d'aller gratter un petit peu en Colombie-Britannique avec ce qui se passe au niveau environnemental. Lambert Drainville, je te laisse le mot de la fin.
Non, ben écoute, il y a tellement de similarités entre ce qu'on voit avec Québec solidaire, entre les deux partis orange, Québec solidaire au Québec, puis le NPD au Canada. Tu sais, comme disait Farnell, je pense qu'il faut arrêter peut-être d'assumer que le NPD veut être un parti pan-national, au même titre qu'il faut arrêter de penser que Québec solidaire se gouverne en fonction d'éventuellement devenir un parti de gouvernement. C'est deux partis très similaires, deux partis très à gauche, deux partis qui vivent une séquence très difficile, deux partis qui ont, ben, le QS ont une course à la chefferie dont on n'a absolument pas entendu parler, le NPD ont une course à la chefferie dont on n'entend absolument pas parler. Et effectivement, comme Parnell le disait, je pense qu'il faut peut-être cesser de croire à ce mirage-là, que ce sont les partis qui, c'est ça, pour ce qui est du NPD, est un parti pan-national, mais ça demeure quand même, malgré ce débat complètement foireux, la meilleure journée que ce parti-là a eue depuis longtemps.
Parce qu'on en a parlé?
Ben, ça, c'est effectivement une bonne nouvelle. Et deuxièmement, parce que avec le positionnement que le Parti libéral est en train de prendre, ils sont en train de leur libérer toute la gauche de l'échiquier politique, où le NPD vont possiblement pouvoir retourner aller chercher quelques gains à ce niveau-là.
T'as entièrement raison. Alors, à Rob Ashton, Tanil Johnston, Heavy Lewis, Heather McPherson et Tony McHale, et non, Pascal, CV, ce n'est pas l'alignement de départ des Golden Knights de Vegas qui affrontent le Canadien à 16h ce soir. On souhaite bonne chance dans la course à la chefferie au NPD.
On a fait bonne chance.
Farnell Morisset, Lambert Drainville, c'est encore un bonheur et un plaisir de faire de la radio avec vous autres. On se reprend vendredi prochain dans ce segment débat. Et Lambert, tu seras avec nous comme à l'habitude le mercredi aux alentours de 13h.
Absolument.
Toujours un plaisir.
Bon week-end, les amis. Salut. Pascal, tu nous as trouvé un excellent invité pour après la pause. C'est l'enseignant Sylvain Duclos. On va revenir sur l'affaire Bedford avec la loi sur la laïcité hier. On a renforcé justement les paramètres du côté de Jean-François Roberge. Et l'enquête, selon Sonia Lebel, se terminerait prochainement pour ces 11 enseignants qui étaient suspendus avec salaire à présent.
Oui, ils demeuraient toujours payés à leur plein salaire, bien qu'ils soient suspendus depuis l'été 2024. Puis, tu sais, tout le monde était un peu fâché devant la lenteur du processus d'enquête. Mm-hmm. On se disait, ben là, c'est-tu tombé en deux craques quand c'est bien important?
Oui, c'est ça, parce qu'on s'entend, là, ça fait plus d'un an qu'ils sont suspendus avec salaire.
Oui, puis là, ils perdraient leur brevet d'ici quelques semaines, c'est ce qu'a annoncé la ministre Sonia Lebel.
Alors, on parle de cela avec Sylvain Duclos après la pause et on va se faire un beau tour d'actualité également. Vous êtes à l'émission On en jase sur Boulevard 102.1. Merci d'être à l'écoute. Dit vendredi fou, dit des rabais extraordinaires. Et chez Matériaux Audet Timber Mart, une entreprise qui gère tes grands projets de construction depuis 1946, on en a. Et on a entre autres des rabais sur les outils Enel. Tu reçois un kit de démarrage en achetant un outil Enel, c'est-à-dire une batterie et un chargeur. Matériaux Audet pour les bricoleurs. Durant tout le mois de décembre, on va avoir des promotions hebdomadaires avec des quantités limitées. Donc, tu dois absolument, mets-toi un rappel, va sur matériauxaudet.ca et organise-toi pour bénéficier des meilleurs rabais pour la période des fêtes. Et ça commence aujourd'hui. Donc, reste à l'affût et continue à faire affaire avec Matériaux Audet qui est complice de tes projets depuis 1946.
C'est la méga-vente.
Jusqu'à la dernière seconde avant ton meeting avec ton boss. On en jase à Boulevard 102.1.
Émission On en jase à Boulevard 102.1. C'est le retour de Gravel qui va suivre de 14h à 18h et c'est le retour aux alentours de 17h de Québec-Montréal, la chronique Québec-Montréal. Richard Martineau, Denis Gravel avec Véro et Audrey. Donc, soyez à l'écoute, ça va être très, très, très plaisant. Moins 1 degré averse de neige pour aujourd'hui. Il y a des flocons qui sont tombés déjà, donc peut-être qu'il y en aura d'autres. Demain, 1 degré généralement nuageux et moins 1 avec de la neige pour dimanche. Pascal, notre prochain prochain invité, c'est la première fois que je vais lui parler, mais je le vois passer sur les médias sociaux. Oui. Parce que oui, c'est un enseignant, mais c'est un créateur de contenu puis un vulgarisateur en éducation. C'est un beau cadeau que tu me fais. J'ai vraiment hâte de parler avec Sylvain Duclos.
C'est un genre de Farnell, mais pour l'éducation. Puis oui, je les compare pas dans le sens où l'un et l'autre, mais dans ce qu'ils font sur les réseaux sociaux, puis pour nous alimenter aussi, puis nous faire comprendre des situations. Ça fait quelques fois que je le prends en onde et que je le book parce qu'il est excellent vulgarisateur, mais il a aussi les deux pieds dedans.
Ah, vraiment! Et on s'en va immédiatement le rejoindre au bout du fil. Sylvain Duclos, comment vas-tu?
Eh bien, bonjour. Ben, ça va très bien, merci.
Good. C'est un bonheur de te parler, Sylvain. Merci de t'être rendu disponible pour l'émission d'Angers sur Boulevard 102.1. Sylvain, on a renforcé la loi sur la laïcité hier du côté du ministre Jean-François Roberge. Et là, bien, ça fait ressortir dans l'actualité le dossier de Bedford. Est-ce que tu es comme la très grande majorité des citoyens que tu trouves que ça prend du temps, cette enquête-là?
Ça prend du temps, l'enquête. Puis ça a pris du temps avant que l'enquête soit déclenchée, puis qu'il y a des choses qui se passent. C'est une histoire qui est interminable. Puis je pense qu'il faut se questionner sur nos processus au Québec pour protéger nos élèves en éducation en général, parce que c'est pas normal qu'il soit aussi long. Bien entendu, faut prendre le temps de faire l'enquête correctement, puis s'assurer qu'il n'y ait pas des personnes qui soient accusées à tort. Mais en même temps, un an, c'est long.
En effet, c'est très long. La ministre Lebel, hier, sur les ondes du 99.5 Montréal avec Isabelle Maréchal, a mentionné qu'on allait y arriver dans quelques semaines. Jusqu'à présent, c'était une recommandation. Elle n'a pas voulu dire le nombre d'enseignants que c'était la recommandation, mais de retirer les brevets d'enseignants pour ceux que l'enquête était terminée. T'attends-tu à voir les 11 enseignants se faire retirer leurs brevets d'enseignement?
Mais on connaît pas les détails pour tous les dossiers individuels. Donc, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ce soit les 11? Je suis pas certain, puis je pense que ce serait un petit peu prématuré de le dire. Je pense que la ministre a dit que c'était la majorité des enseignants qui verraient leur probablement là, leur brevet retiré. Mais la totalité, je pense qu'il y a peut-être des nuances, des gens qui étaient un petit peu moins impliqués que d'autres. Donc, on verra ce qui va en sortir.
C'est particulier comme affaire, par contre. Hein? C'est quelque chose qui se trame depuis 2016. Tu le dis, effectivement, ben, tout a été long. Le fait de prendre compte, acte de la situation. Mais c'était dans une école primaire. Et là, on se rend compte que c'est d'un laxisme exceptionnel. On se renvoie la balle. On est en enquête pendant plusieurs temps. Est-ce qu'on est assez protecteur de nos écoles, de nos jeunes?
Ben, je pense qu'il nous manque des mécanismes qui sont plus efficaces parce que dans cette histoire-là en particulier, ben, il a fallu au final que ça sorte dans les médias pour que le politique s'en mêle, alors qu'on sait après coup, là, dans les premiers rapports qui sont sortis, que la direction avait avisé le centre de service scolaire, qu'elle avait demandé de l'aide, puis que la situation elle avait perduré. Donc il y a des mécanismes à ce moment-là qui n'ont pas été mis en place, qui n'ont pas été suivis. Puis, bizarrement, on questionne très peu la réponse du centre de service scolaire dans cette histoire-là. C'est comme passé sous le tapis, mais moi, ça me questionne beaucoup.
Pendant plus de 7, qu'on dit, pénibles années, il y a un groupe d'enseignants qu'on nomme archaïque et qui était défendu par le syndicat et qui prenait le leadership pédagogique de l'école, qui ont un peu régné comme ils voulaient. Donc, pas de mécanisme efficace d'évaluation de la compétence des enseignants en cours d'emploi, perdu de vue la situation de l'école Bedford au cours des années, puis aussi disposer d'une faible capacité à effectuer des suivis. Pourtant, effectivement, normalement, ce qu'on a fait avec les écoles primaires puis avec les services scolaires, c'est d'essayer d'arrimer le tout puis de faire en sorte qu'il y ait comme un genre de réglementation uniforme, hein, ou assez uniforme. Est-ce que Bedford est unique ou on peut prétendre qu'ailleurs ça peut se passer comme ça si on voit à quel point c'est malmené?
Ben, je pense pas que on peut difficilement déterminer si c'est des situations d'ordre, on va dire, religieuses ou culturelles comme celle de Bedford, mais c'est certain qu'il y a des situations qui sont problématiques dans d'autres écoles au Québec, primaires ou secondaires, où il y a de mauvais climats. Moi, j'ai des enseignants puis des membres du personnel qui m'écrivent de façon régulière pour me dire « Ah, dans mon centre de service scolaire, c'est difficile, il y a peu de respect, il y a des situations avec des collègues. » Il y en a qui existent un peu partout, comme dans tous les milieux de travail. Hein. Puis souvent, les écoles, c'est des petits milieux qui sont isolés, c'est des petites communautés. Donc, ça prend vraiment une certaine diligence des centres de services scolaires pour s'assurer justement que le climat de travail soit harmonieux. Quand tu as 3, 4, 8 directions qui passent dans une école en quelques années, faut peut-être se poser des questions. Là.
Sylvain, évidemment, ce qui était reproché à Bedford, c'était de faire de l'enseignement en fonction de la religion. Est-ce que tu crois qu'avec le projet de loi sur la laïcité présenté hier par Jean-François Roberge, où on va arrêter le financement des écoles qui sélectionnent leurs enfants selon la foi, ça va venir faire en sorte qu'on risque moins de frapper des cas comme Bedford?
Est-ce que ça risque d'aider? Je pense que oui. Cependant, il y a quand même des choses qui risquent de se faire par en dessous. C'est certain qu'on a décidé au Québec d'avoir une société qui était laïque, donc la religion devrait sortir des écoles. Ne pas sélectionner les jeunes en fonction de leurs croyances religieuses, je suis amplement d'accord. Je ne comprends pas qu'en 2026 au Québec, on finance encore des écoles religieuses, alors que toute la société laïque.
Je suis tellement d'accord avec toi, Sylvain. Pour moi, quand le ministre Roberge a présenté ça hier, j'ai dit « Hein, ça existe encore? » J'étais complètement sous le choc de savoir que ces écoles-là voyaient encore le jour.
Je me demande une question un peu particulière, mais tu sais, si on enlève, si on sanctionne ces enseignants-là, qui sont au compte de 11 et dont on dit qu'il y a une partie qui risque de perdre leur brevet d'enseignement, brevet qui serait, totalement maintenant enlevé de leur parcours professionnel, avec la pénurie d'enseignants que l'on voit dans les écoles depuis des années, il y en a plein d'enseignants qui n'ont pas de brevet d'enseignement et qui sont dans les classes. Est-ce qu'on pourrait les voir retourner en classe à un moment?
Ben, ça, c'est ce qui m'a fait rire jaune cette semaine, à savoir qu'avoir un brevet, c'est putain essentiel pour pouvoir enseigner de nos jours au Québec. Cependant, il y a des tolérances pour pouvoir avoir le droit d'enseigner. Donc, je présume que ces enseignants-là vont avoir une note quelque part pour ne pas les réengager ailleurs pour enseigner. J'espère. Mais des fois, je perds un petit peu confiance dans notre bureaucratie, malheureusement. Donc, voilà.
Ça m'amène justement, Sylvain, à te parler en général dans les écoles. Comment ça va? Parce qu'on sait qu'il y a de plus en plus d'enseignants non qualifiés. Tu le dis, il y a énormément d'enseignants qui te font confiance, qui te parlent, qui t'écrivent. C'est quoi le climat que tu sens à l'heure actuelle dans le milieu de l'éducation?
Bien, je vous dirais que c'est une grosse année en général. On est parti sur les chapeaux de roue, un peu tout croche. On a toujours la situation de la pénurie qui est difficile parce que des gens non légalement qualifiés, on est là pour les épauler, pour les aider à aider les élèves. C'est pas toujours facile. Souvent, on travaille en double puis en triple. Mais les coupures budgétaires qui avaient été faites ont fait qu'on est parti cette année dans plusieurs écoles avec des groupes plus pleins qu'à l'habitude. Donc, on a pacté les groupes au bouchon parce qu'on savait qu'on manquerait de personnel ou on manque d'éducateurs spécialisés, etc. Il y en a qui ont quitté le réseau. Puis, on est parti un peu croche. Moi, les enseignants, ce qu'ils me disent, c'est qu'ils ont l'impression d'être 2 puis 3 mois en avance sur leur année scolaire. Puis là, en ce moment, ils ont vraiment hâte aux fêtes parce qu'ils sont vraiment, vraiment fatigués.
Et la pénurie, justement, du personnel de soutien, ça doit avoir une incidence énorme sur l'énergie puis le moral des troupes?
Oui, ça a une incidence parce qu'au final, il y a des choses qui doivent être réglés avec le support des TES, des psycho-éducateurs, etc. Puis quand on n'en a pas, ben c'est des situations qui perdurent et qui viennent avoir de l'impact dans les classes. Puis on sait que la gestion de classe, c'est de plus en plus difficile dans nos écoles. Donc oui, ça a un impact pour le personnel, mais aussi pour les élèves. Puis les jeunes qui vivent des situations où ils n'ont pas les services, puis où est-ce qu'ils peuvent se décourager, puis peut-être qu'ils vont devoir reprendre des années parce qu'ils n'ont pas les services nécessaires.
Sylvain Duclos est enseignant, créateur de contenu et vulgarisateur en éducation. Sylvain, je continue à te suivre sur tes médias sociaux. Merci d'avoir participé à notre émission et au plaisir de se reparler prochainement parce que l'éducation, c'est une priorité pour nous à Boulevard 102, même si ça ne paraît pas toujours pour le gouvernement.
Merci à vous, bonne journée.
Salut Sylvain, salut. Merci beaucoup. C'était Sylvain Duclos, donc excellent enseignant et excellent vulgarisateur en éducation. On vient de passer les 3 vulgarisateurs, Lambert, Farnel, ouais. Sylvain.
Mais moi, c'est ma crainte hein, en enseignement parce que justement, pénurie de main-d'œuvre, qu'on revoit des gens qui n'ont plus de brevet pour une raison adéquate, hein, raison adéquate pour laquelle on a enlevé ce brevet-là. Je dis pas qu'ils sont plus capables d'être pédagogiques, plus capables d'être enseignants, mais clairement, ils ont dépassé des limites ouais. importantes pour être sanctionnés. Donc, honnêtement, je préfère un Gérard qui a étudié la chimie qui est chimiste et qui s'en va avec un peu moins de pédagogie dans les classes que certains qui auraient dépassé, par exemple, les fameuses...
Clairement. Puis honnêtement, moi, t'es pour avoir vécu ça, mes garçons qui ont des enseignants qui ne sont pas qualifiés, autrement dit, sont quand même bien accompagnés par leurs collègues et ça se passe bien dans les classes. Donc, mais c'est sûr que ce qu'on veut, et ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'il y a une augmentation des gens qui s'inscrivent dans les différents bacs en enseignement. Mm-hmm. Ce qu'on veut avant tout, c'est avoir des écoles remplies d'enseignants qui ont leur brevet d'enseignement, on s'entend.
Première chose, il faut revaloriser la profession et pour ça, ben, faut penser à leurs conditions, il faut penser à des classes dans lesquelles les jeunes peuvent apprendre selon leur parcours. T'sais, on a voulu bien faire en étant inclusif puis en mettant plein de jeunes qui ont des besoins différents dans les mêmes classes qui étaient surpeuplées, mais sans aide externe. À la base, cette décision-là était prise avec le fait qu'on allait avoir des aides qui allaient venir en classe. Il n'y en a pas assez. C'est pas réalisable.
C'est tellement un bon point. Je parlais avec une enseignante l'autre jour et dans sa classe, elle a 10 plans d'intervention. Donc, elle a 10 façons différentes. Puis là, je dirais 11 parce que supposons pour les 10 autres élèves, il y a une façon. Puis là, après ça, on en a 10 individuels d'intervenir en enseignement. Est mélangée, est brûlée.
Puis pendant ce temps-là,
elle est toujours
doit enseigner.
Ses talons. Pendant ce temps-là, elle doit enseigner. Donc, c'est vraiment pas facile. Et là, évidemment, avec les coupures du ministre Drainville, les 2-3 personnels de soutien qu'elle était censée avoir, elle en a un. Fait que lui, ce personnel-là aussi est débordé, alors ça crée une mixité dans la classe très difficile.
Deux situations très claires quand on parle de plan d'intervention. Okay? Toi, tu dis qu'elle en avait 10 différents. Moi, je t'en donne deux que j'ai eu comme exemple clair et net, précis dans les dernières semaines, derniers mois. Un enfant qui ne parle pas français du tout. Un immigrant qui est arrivé, c'est un enfant immigrant avec sa famille, qui n'a aucune compétence en français, qui est laissé pour compte dans la classe dans le sens où il s'est fait dire, c'est ça ta classe, c'est là ta classe et tu commences maintenant.
Coupure en francisation.
Et qui n'a aucune façon de communiquer avec l'enseignante, parce qu'on ne parle pas d'anglais pour sa première langue, et qui n'a aucune façon avec laquelle il peut comprendre ce qu'on lui a enseigné en ce moment. Fait que l'enfant est juste perdu dans la classe et il doit attendre que le temps passe parce qu'il n'y a personne, effectivement, pour l'aider avec la francisation. Puis certainement, il a été mis dans une classe où il ne peut pas être à ce moment-là. Mais l'enseignante a tellement d'empathie, de compassion, ça lui fait de la peine à chaque jour parce que l'enfant pleure aussi. Il se demande qu'est-ce qu'il fait là. Il ne comprend rien, c'est difficile. Puis il va être noté en conséquence. Ouais, imaginez, être obligé de lui faire des notes.
C'est ça.
Puis l'autre affaire, c'est un enfant qui a un problème de comportement, donc comportemental, qui se fâche. Quand il se fâche, ça peut prendre 30 à 45 minutes, ramener l'enfant. Imagine sur une période de 30, 45 minutes. Si l'enfant entre désorganisé dans le cours, dans la période, l'enseignante n'a pas le choix d'aller s'occuper de cet enfant-là. Pendant ce temps-là, l'enfant qui ne comprend rien en français est toujours dans la classe.
C'est ça.
Il y a peut-être d'autres plans, d'intervention ou des jeunes à besoins particuliers dans sa classe aussi. Mais elle doit se concentrer sur l'enfant qui est en train de péter une coche. Parce qu'il est en train de démolir ce qu'il y a autour de lui.
Oui, mais c'est ça que j'allais dire. Il peut tirer les objets, il peut renverser le pépite, il peut faire plein d'affaires.
Juste en étant désorganisé, les émotions qu'il ne contrôle pas. Donc, peut-être faut sortir l'enfant, faut le calmer et tout ça. Pendant ce temps-là, la classe, il se passe quoi? Elle est laissée à elle-même. Mm-hmm. Et personne n'apprend avec un cheminement. Les enseignants, dans les revendications lors de tout ce qu'il y a eu comme grève enseignante, là, il y avait des choses qui étaient tellement importantes pour lesquelles ils n'ont pas le droit de se prononcer parce qu'ils ont un besoin et un devoir de discrétion demandé par la direction puis surtout la commission scolaire et donc le ministère de l'Éducation.
Ils se sont fait carrément avoir par leur syndicat et le gouvernement qui, au lieu de régler, et leur point premier pourquoi ils ont fait la grève, c'est ce qui se passait dans la classe.
Oui.
Plus capable de gérer la classe. Au lieu de régler ça, on leur a donné des augmentations de salaire, mais on n'a rien réglé de ce qu'il y a dans la classe. Fait quand même qu'ils gagnent 10-12 000 de plus par année. Ils quittent quand même la profession. Elles quittent parce qu'il y a en majorité des enseignantes. Parce que c'est juste rendu trop difficile. Et je les comprends là, que c'est rendu difficile. Là. On le voit, on le sent, on le voit que pour elles, c'est très, 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 très pénible présentement d'être motivé, de réussir à enseigner.
Parce qu'ils ont l'impression de même pas pouvoir travailler pour le pourquoi ils ont étudié. Puis, tu sais, il y a des gens qui nous écrivent et qui ont dit « Ah, moi, mes enfants ont voulu être enseignants, ça n'a pas fonctionné, les notes et tout ça. » Il y a plein de discours qui sont différents puis de témoignages. Merci au 88-971-1021. Mais quand tu arrives dans une classe, tu es épuisé puis tu te rends compte que tu as un enfant qui pleure parce qu'il se sent seul à chaque jour. Tu as des enfants en détresse dans ta classe. Tu as l'impression d'être même pas qualifié pour gérer une désorganisation d'un trouble comportemental. Puis en plus, tu vois tes autres élèves qui ne demandent qu'à apprendre. pour lesquels tu n'es pas capable mm-hmm. d'établir un plan scolaire puis de le suivre pour ta journée, tu dois revenir à la maison en te sentant, un, inefficace, deux, pire ou pire enseignante au monde, puis trois, à mauvaise place parce que ta santé mentale en paie le prix.
Clairement, puis ces gens-là ont étudié justement en enseignement. Donc, leur but premier, c'est d'être capable de transmettre des connaissances. Fait que quand tu arrives à la fin de la journée, tu dis « Ouais, j'ai pas transmis les connaissances que j'aurais dû transmettre parce que j'ai géré petit Louis-là, petit Luc-là, petit Jean-là », ben t'sais, ça fait en sorte que tu n'es plus motivé à ta tâche.
Puis le nombre d'enfants en classe aussi. Là, on est en train de construire des genres de j'appelle ça des cabanons. Là.
Ouais.
Mais pour certains, ils sont vraiment impressionnants, sont vraiment, vraiment bien faits. Mais pourquoi on n'a pas vu ce boom démographique-là d'enfants dans nos écoles quand on a des statistiques sur l'immigration, puis le nombre d'enfants qui naissent, puis qu'on sait qu'en telle année, ils auront l'âge de la maternelle, puis on n'a pas été capable de voir ça venir.
Hey, ça, là, moi,
j'en
dis toujours la même chose. Quand Elliot est rentré en maternelle, il était 8 classes de maternelle. Il transformait une école qui était secondaire 1, secondaire 2 en école primaire. Alors, je connaissais le directeur, je vais voir le directeur, puis je dis, hey, M. Carl, j'imagine que le centre de services scolaires travaille déjà à construire une nouvelle école secondaire parce que là, tu sais, tout ce monde-là rentre au primaire. Puis là, il dit non, il dit pas encore dans un carton. Ben, j'ai dit OK, ils ont 6 ans pour le faire. Ben, sais-tu, ils l'ont fait après combien de temps? Ils l'ont fait après 11. Elliot a eu le temps de finir son secondaire.
Tu sais.
Pendant ce temps-là, ben, Elliot et Edouard ont eu des cours dans les modulaires. Fait que, c'est fâchant hein, quand tu vois ça. Tu dis, voyons, comment ça, moi, simple citoyen, je rentre dans cette école-là, puis je me dis, hey, il va falloir qu'on soit une école secondaire. Hein?
Puis tu sais, souvent le patchage, là, le colmatage fuite, là, quand on parle des modulaires, là, les cabanons, les ce que vous voulez.
Exactement.
Ça, là, ça coûte de l'argent.
Ben oui.
Puis c'est parce que tu n'as pas le choix de prendre cette solution-là immédiatement. Moins long à construire, plus facile, modulable, justement, sur un terrain d'école déjà existant. Sauf que le coût que ça a de patcher versus prévenir, travailler en amont. D'après moi, si on se mettait à surveiller puis on avait ces coûts-là devant nous, ça coûtait beaucoup plus cher.
Clairement.
De faire du colmatage, du patchage.
Puis c'est-tu la meilleure là-dedans? C'est qu'ils ont construit une nouvelle école secondaire. Puis l'année d'après, ils ont mis des modulaires dans le cours parce qu'ils l'ont pas construit assez grande. Ils ont enlevé les modulaires à la poly de Charlebourg parce qu'il y avait cette nouvelle école-là. Fait qu'ils ont retiré des modulaires pour en remettre l'année d'après. Quand on dit que c'est de la mauvaise gestion, c'est très décourageant. Bon, encourage-nous. As-tu des bonnes nouvelles?
Non, dans les nouvelles?
Ouais.
Ah, ben OK, je vais t'en... Regarde, je vais commencer
parce
avec
ça. Parce que me semble que le maire Marchand va nous annoncer de quoi de bon, hein?
M'en aller sur la hausse de taxes à Québec qui est sous l'inflation. Elle est à 1,9% en 2026. L'administration Marchand qui s'apprête à annoncer tout ça. Donc, c'est la plus basse hausse de taxes des 5 dernières années. C'est le budget qui sera présenté le 3 décembre prochain. C'était une promesse électorale. Tout porte à croire qu'on va la respecter. Donc, durant la campagne, vous le savez, à l'automne, Bruno Marchand s'était engagé à maintenir la hausse des taxes résidentielles sous l'inflation. Il nous avait dit ici en ondes souvent qu'il allait quand même avoir une hausse, mais selon l'inflation. Donc, vraiment à faible pourcentage. Finalement, ce qu'on apprend, c'est sous l'inflation. 1,9%, ça respecterait l'engagement, puisque la moyenne calculée par la Direction générale de la Ville avait été établie à 2%. Alors, 1,9% au lieu de 2% sur une période de 12 mois. Entre le 1er septembre 2024 et le 31 août 2025. Et cette hausse-là, ça inclut l'ajustement de tarification pour la gestion de l'eau et les matières résiduelles, des affaires que vous avez besoin chaque jour, sans que ce soit sexy. Mais pour une maison moyenne évaluée, mettons, à 379 000, l'augmentation, c'est 62 % quand on consulte les
62 piastres.
62 dollars. Tabarouette, pas 62
%. C'est pas grave, on est vendredi, mais je suis content.
Merci d'avoir été là.
Ouais, je suis content, parce que ça veut dire que je vais avoir une petite augmentation de taxes. C'est fun. Non, mais c'est le fun, puis c'est la preuve que quand même, dans les 4 dernières années, moi, je le répète depuis 2 ans, que Bruno Marchand, au niveau du cadre financier de la ville, fait très bien. On rembourse la dette comme il se doit. Complètement différent de ce qu'on voit à Lévis. Lévis, c'est le bordel total. On ne sait pas ce qu'on va faire avec le 13,6 millions qui manque. Ça va être les commerces, ça va être les résidents. Qu'est-ce que Stephen Blaney va faire à Lévis? On a vraiment eu des problèmes à instaurer un cadre financier, puis on a eu des problèmes, évidemment, de développement trop rapide.
C'est comme une souffrance économique là, qui est à venir un petit peu au niveau... Tu sais, avaler quelque chose de croche pour les gens de Lévis, nos Lévisiens préférés. 127,6 millions de dollars, ça, c'est un contrat qu'on a octroyé pour le troisième lien depuis 2018, si vous pensez. pensez qu'il était
pas... Ah, ça veut dire qu'il va se faire!
Si vous y pensez qu'il n'était pas travaillé, il l'est. Montant de 43,3 millions de dollars qui a été déboursé pour le paiement des fournisseurs. Alors, directement payer des gens qui fournissent la quantité de matériaux dont on a besoin ou encore de plein et tout ça. Jusqu'à maintenant, le gouvernement Legault a signé des contrats. Et ces contrats-là, c'est ça qui totalise le 127,6 millions de dollars pour ce qu'il va faire, un lien entre Québec et Lévis. Et c'est à la demande du Journal de Québec qu'on a réussi à compiler la plus récente valeur des contrats qui avait été octroyée. On veut connaître la somme, en fait, des contrats signés depuis le lancement du projet, ça veut dire en date de 2018. En date du 31 octobre 2025, c'était 127,6 millions de dollars. C'est ce qu'a offert le porte-parole du ministère, Nicolas Vigneault. On comprend qu'il y a plein de mandats et d'études. On comprend que les plus récents sont de l'ordre de 46,2 millions de dollars pour un contrat majeur d'ingénierie, de 15,2 millions de dollars pour des études géotechniques et de 6 millions pour les services juridiques. Mais auparavant, même si on a eu diverses études, mandats de recherche qui avaient été commandés, parmi les plus coûteux, là, il y a l'élaboration d'une étude d'opportunité à 8,4 millions de dollars en 2018. Donc, c'est contesté. Hein, vous le savez, le gouvernement Legault en a profité pour approuver le corridor central et ça ne fait pas l'unanimité dans la région. Les maires de Québec puis de Lévis, entre autres, ont émis beaucoup de réserves sur ce choix-là. Mmh.
Répète-moi ça, c'est combien de millions de dollars, là?
Ben, en ce moment, là, ce qu'on est capable de mettre sur le papier, c'est 127,6
millions. 127,6 millions. Fait que si j'ai compté, c'est à peu près...
De déjà dépenser là, pour des contrats octroyés.
Si on n'essayait pas encore de nous faire croire qu'on va faire un troisième lien en dépensant 127 millions, on aurait réussi à répondre aux demandes des banques alimentaires en argent qu'ils demandent au gouvernement pour les 7 prochaines années. Je comprends là, que c'est des budgets différents, tout ça, mais des fois, là, quand on regarde ce que le monde vit sur le terrain, là, c'est un peu ça.
Absolument, absolument. Je te parle d'une nouvelle qui est difficile à jaser. Ça concerne un beau-père. Hein. Tu sais, des histoires sordides de famille. Là, c'est un beau-père qui a été accusé de plus de 20 ans après avoir quitté... je vous explique. Le beau-père des enfants du côté de Montréal... est coupable d'abus physiques et sexuels sur 4 enfants. C'est 7 ans seulement pénitencier pour une décennie d'horreur. Donc, il a été accusé plus de 20 ans après avoir quitté leur vie. C'est une histoire qui était au palais de justice de Montréal. L'accusé a 65 ans, puis a avoué ses crimes plus tôt cette semaine au palais de justice.
Ils ont gardé ça pendant 20 ans.
Il a pris le chemin de la détention. Il avait été arrêté l'an dernier après 30 ans, après avoir quitté la résidence où il a fait vivre l'enfer aux 4 enfants de sa conjointe. Son identité protégée, on ne veut pas révéler celle des victimes. On est allé en cours, mais on souhaite avoir un anonymat. Et là, on parle d'une décennie qui a rattrapé là, cet homme-là, où il devrait maintenant croupir pendant 7 ans au pénitencier. Puis ça fait tellement jaser, parce que des abus sexuels qui ont débuté peu après l'aménagement avec lui en 95. Je vous épargne les détails, mais c'est dégueulasse. Puis c'est 7 ans de prison pour 4 enfants qui ont vu leur vie être changée à jamais.
Pas assez, hein?
Moi, je trouve que c'est pas assez.
Non, pas assez. Les abus sexuels sur les enfants, les femmes...
7 ans. Il y a 65, là.
Sur 4 personnes.
Selon l'expérience.
Exactement. Moi, je partirais ça à 10-12 ans, minimum. Puis on monterait, puis j'accumulerais les peines.
Puis je vous le jure, si vous voulez voir pourquoi on trouve que c'est pas assez sévère, les détails sont... sordide. Yes. Hey, en passant en fin de semaine.
Ouais, vas-y donc.
Si ça vous intéresse, les raccompagnements de Nez Rouge,
oui,
ça reprend
ça commence
ce soir. Alors, c'est le signe que le temps des fêtes approche. On est de retour, service de raccompagnement à compter de ce soir dans plus de 40 communautés au Québec. Et cette année, c'est 84 % de la population qui a accès au service d'opération Nez Rouge. C'est super. Donc, on est déployé sur le terrain. Comme chaque année, on cherche des bénévoles, que ce soit une soirée, plusieurs soirées, que ce soit à la centrale, que ce soit sur les routes. Profitez-en pour avoir du fun avec vos amis. C'est vraiment du beau bénévolat.
Oui.
Puis, tu raccompagnes des personnes festives qui sont de bonne humeur assez souvent. Et on voit qu'il y a eu une baisse à travers les dernières années, mais on se dit, hey, on est là, puis on est prêt à vous servir, puis à vous ramener en sécurité.
Pascal, je te l'ai dit, le Canadien joue cet après-midi 16h à Vegas contre les puissants Golden Knights, mais il y a une très bonne nouvelle pour les partisans du Canadien ce matin. On écoute premièrement de quel joueur cette nouvelle-là est sortie.
Hudson tente de se démarquer.
Mike Matheson, Pascal. Mais pourquoi je te parle de Mike Matheson, le défenseur vétéran de 31 ans du Canadien, malgré son nom anglophone, qui vient de Montréal, qui parle en français? Ben, c'est parce qu'il a signé un nouveau contrat. 5 ans avec le Canadien, 30 millions de dollars, 6 millions par saison. Mais honnêtement, c'est pas tant que ça.
Hey là, attends, là.
On s'attendait à ce qu'il signe peut-être pour 7 millions par année.
Pourquoi? Parce que, mon Dieu, il valait 7 millions par année.
Ouais, il va vraiment bien. C'est un joueur qui... C'est lui le défenseur le plus utilisé du Canadien de Montréal. Il a 14 points depuis le début de la saison.
Ce qui me ferait, c'est que le gars, mettons, qui était payé 75 000, puis que le monde disait, ben, il valait au moins 80 000. On s'entend que c'est 5 000 de différence. Là, c'est un million.
Là, c'est un million. Ouais, t'as raison.
Selon ce que les partisans, eux, étaient prêts à payer.
C'est vrai qu'on regarde ça. Donc, je l'ai dit, le Canadien qui joue contre les Golden Knights à 16h. Journée remplie de matchs de hockey. Hier, c'était le football de la NFL. Aujourd'hui, c'est la Ligue nationale de hockey et la NBA au basketball. Et présentement, il y a déjà un match en cours. Et le Lightning de Tampa Bay vient de prendre les devants 2-1 sur les Red Wings à Détroit. C'est un but de Gage Concave. Vous le connaissez pas? C'est normal, c'est son deuxième de la saison. Alors, 2-1 Lightning. Hey, Pascal, as-tu vécu des petits frissons hier?
Non.
Non, pas hier. Voyons là. Forced into the role with Nate Wiggins out right now. Pressure comes. Picked up. Burrow. Josivash! Touchdown! Cincinnati!
80 for the Bengals in the end zone. Thanksgiving one dead. With a Thanksgiving wish for the parents as well. Pourquoi je n'ai pas vécu de frissons à cette game de 32-14 pour les Bengals contre les Ravens? Parce que je veux qu'ils me prouvent que ce n'est pas le coup d'une chance. Ce n'est pas le coup du retour de Joe Burrow sur le terrain. J'étais très contente, bien sûr.
Oui, deux passes de toucher pour Joe, pas d'interception, son orteil a tenu.
Mais j'espère vraiment que ce n'est pas une histoire d'adrénaline et de retour pour se prouver, parce qu'il y a des années difficiles. Joe Burrow, on le sait, corps arrière des Bengals. Alors, ce sera pour le prochain match où je garde mes frissons et je les utiliserai à bon escient.
Hier, trois surprises dans la NFL. Les Packers qui ont battu les Lions 31-24. Victoire des Cowboys de Dallas sur les Chiefs de Kansas City 31-28. Et les Bengals qui ont battu les Ravens 32-14. 15h cet après-midi, le prochain match. Et c'est les Bears de Chicago qui visitent les Eagles de Philadelphie.
Oui.
Deux équipes à 8 victoires et 3 revers. Ça va être un excellent match.
Surprenant pour les Bears et une continuité pour les Eagles.
Exactement. Très surprenant pour les jeunes Bears avec le carrière Caleb Williams, premier choix du repêchage de 2024. Donc, match à suivre. Moi, après l'émission, là, on va aller mettre en dessous mon divan.
Un vendredi avec la NFL en plein Thanksgiving américain.
Je risque de me déboucher une petite bière.
On le mérite.
On le mérite, certain. Sais-tu ce qu'on mérite aussi? On mérite d'écouter Dan Caron dans le garage à Dan. C'est ce soir, 18h, de 18 à 20h. Puis qu'est-ce qu'on a à part de ça dans cette programmation de fin de semaine-là?
Parce que c'est des belles choses. Hein? Si vous vous levez tôt la fin de semaine, c'est avec Audrey Pinchot que vous allez passer la matinée dans le Rock and Chill.
Hey, ça, on mérite ça le samedi matin avec notre café, un petit Rock and Chill.
Exactement. Sinon, c'est Colas, c'est Dan qui vous accompagne pendant la journée avec de nombreux prix. Puis il y a le Rack à Mac assurément le dimanche qui fait plaisir à tout le monde.
Tu parles de nombreux prix. Là. J'ai-tu vu ça passer que Megadeth naît au centre Vidéotron, puis là, qui dit Megadeth dit boulevard, dit sûrement
c'est
la
dans
fin
notre tale,
de semaine,
hein?
Vu qu'il y a de la musique. Là,
c'est dans notre tale. Puis probablement qu'une couple de personnes ont mis le 6 mars à leur horaire pour essayer de se dénicher des billets pour Megadeth. Ben, peut-être que vous pouvez vous aussi espérer, même si vous n'avez pas le budget cette année, de mettre le 6 mars à votre horaire, parce que c'est payant, écoutez, boulevard 102.1.
Yes.
Si c'est votre band, ben, en fin de semaine, on a des paires de billets pour vous.
Ah, voyons donc. Donc, soyez à l'écoute du Boulevard du Rock cette fin de semaine et du Garage à Dan ce soir. On fait une courte pause. Par la suite, on fait le tour de l'actualité municipale avec notre chroniqueur politique, Irénée Rutema. Et également, on aura Véronique Thibault. Tu n'étais pas là lundi.
Non.
J'ai fait un dossier. J'avais interviewé Véronique dimanche dernier. Véronique est la mère de la petite Jasmine qui est rendue à 2 ans et demi, qui a des problèmes de poumons depuis sa naissance. Ouf. Mais ça n'en finit plus. Tu sais, quand tu disais être pris dans les 12 travaux d'Astérix, là.
Avec son enfant malade.
Exactement. Père, son médecin de famille, des dossiers qui tombent entre deux chaises, essaye d'avoir un spécialiste, pas capable. Et là, cette semaine, elle est allée consulter un spécialiste à Montréal. Donc, on va prendre des nouvelles de ceci avec Véronique. Et la petite Jasmine s'est fait enlever les amygdales pour la deuxième fois, parce que je savais pas ça. Les amygdales peuvent repousser.
Sérieux?
Oui. Et là, il y avait tellement poussé qui était rendu au grade 3, et au grade 4, l'air passe plus. Ben, t'imagines?
J'étais dans l'ignorance totale.
Moi aussi. Alors, Véronique va nous expliquer ça. Elle va nous expliquer aussi qu'elle est en attente d'un IRM qui pourrait justement faire en sorte qu'on trouverait ce que sa fille a. Elle est en attente là-dessus depuis plus de 6 mois.
Quel courage.
Et puis, quand elle a appelé à Santé-Québec, on lui a dit, ben, ça suit son cours normal.
Pas de nouvelles, pas de possibilité d'avoir l'information.
Non, c'est ça. Ça suit son cours normal. Tu sais, la belle empathie pour une mère de famille qui tente désespérément que sa fille aille bien. Donc, c'est ce qu'on fait après cette courte pause à On en jase sur Boulevard 102. Plus de 3000 reproductions miniatures construites par les concepteurs de l'exposition. Hein? Tu nous parles de quoi, là, Jeff Fortin? Je vous parle de Ludovica Mainland, un monde miniature encore plus grand qui est à Québec. Et c'est à Laurier, Québec, que cette exposition a lieu. Ça présente des œuvres aux quatre coins du monde depuis plus de 15 ans. C'est des reproductions gigantesques, notamment de la ville de Paris, qui a été utilisée pour la création d'un documentaire américain pour Universal Pictures dans le cadre de la série télévisée de N is Nigh, le plus grand en Amérique. Ludovica Mainland, c'est un parc intérieur de type Legoland et la portée de sa collection n'égale que son ampleur. L'exposition déploie des bâtiments et monuments célèbres sous vos yeux en un panorama époustouflant que vous ne risquez pas d'oublier. Faites le tour du monde dans le plus grand parc de type Legoland en Amérique avec Ludovica Mainland. C'est à Laurier, Québec. Et pour consulter, pour savoir l'horaire, pour voir de quoi ça a l'air, ces fameux bâtiments miniatures, allez sur le ludovica.ca.
C'est la méga-vente chez Maxi. Profitez de milliers de baisses de prix, dont le jus Oasis à 1$, le bœuf haché maigre 908 grammes à 10$ et le poulet entier à 1,99$ la livre, 4,39$ le kilogramme. Plus de rabais en circulaire et chez Maxi.
Vous avez toujours rêvé de rouler dans un véhicule fiable et de qualité, mais sans que ça vous coûte un bras? Ben chez Lévis Mazda, le rêve devient réalité avec le Mazda 3 seulement, 84$ par semaine, et le CX-30 avec traction intégrale à 92$ par semaine avec un léger comptant. Je vous le dis, allez en essayer un et vous n'en reviendrez pas à quel point Lévis Mazda vous offre une expérience haut de gamme à un prix imbattable. Chez Lévis Mazda, on s'occupe de vous. Envie d'un solarium ou d'une véranda? Chez Moreau PRS, nous servons les deux rives depuis près de 40 ans. Faites confiance aux meilleurs. Découvrez les produits SunSpace Sunrooms pour un confort exceptionnel. Passez-nous voir ou visitez moreauprs.com.
Cet hiver, offrez-vous un séjour inoubliable au cœur du Vieux-Québec. L'hôtel Atypique vous accueille dans une ambiance unique entre attraits historiques, café chaleureux et ambiance romantique. Et grâce à Mercado.fm, profitez d'un forfait exclusif au meilleur prix de l'année. Le cadeau de Noël idéal pour gâter quelqu'un que vous aimez ou pour vous faire plaisir. Confort, rencontres et décors féeriques vous attendent à l'hôtel Atypique. Visitez Mercado.fm dès maintenant.
Boulevard. Chaque jour de la semaine, Denis Gravel et Yannick Marceau traitent des dossiers chauds du jour. Puis qui l'eût cru, ils pensent pas la même affaire.
Qu'on vous reconnaisse au quotidien par votre regard captivant, votre sourire éclatant ou votre style extravagant, votre identité est unique. Et elle vous permet d'accéder aux services en ligne du gouvernement du Québec en quelques clics. Le service d'authentification gouvernementale. C'est simple, rapide et sécuritaire. Créez votre compte dès maintenant au québec.ca/authentification gouvernementale. Un message du gouvernement du Québec.
À la librairie Maison Anglaise, nous offrons les seuls voyages sans bagages, sans stress et sans décalage horaire. Laissez-nous vous faire visiter les étoiles avec Chris Hadfield, résoudre un crime avec John Grisham ou flirter avec un vampire avec Ali Hazelwood. Votre imagination est la seule limite. Achetez local et voyagez dans le monde entier. Pour votre prochain voyage, des milliers de titres et versions audio, anglais et espagnol, vous attendent. La Maison Anglaise à la Place de la Cité ou lamaisonanglaise.com.
Bonjour, c'est Cécile des Cliniques Viva. C'est le retour de nos forfaits des fêtes sur nos traitements les plus populaires, entre autres le laser Triton et nos traitements avancés pour la peau. Profitez de nos meilleurs prix de l'année en vous procurant l'un de nos 8 forfaits et courir la chance de gagner un crédit voyage de 2 000.
Pour les fêtes, impressionnez vos invités avec la collection fine Dubal de Distillerie. Rehaussez vos réceptions avec des vodkas et des gins aromatiques fièrement imaginés pour célébrer l'élégance de notre terroir. La collection fine Dubal de Distillerie, disponible en SAQ.
Pour les jours fous cette année, la circulaire m'a amené des rabais et des bas prix. Jusqu'à lundi, rendez-vous sur métro.ca et obtenez 50% de rabais sur la passe de livraison 12 mois, en plus de 25$ de rabais sur métro.ca pour votre prochaine commande en ligne. Économisez un total de 75$ pendant les jours fous. C'est pas fou, hein? Pour économiser temps et argent sans sacrifier sur la qualité, on se retrouve chez Métro et sur métro.ca. Des conditions s'appliquent. Détails en magasin.
En novembre, chez Volkswagen Saint-Nicolas, obtenez le Tiguan pour $122,31 par semaine en location 51 mois avec 16 000 km par année. Venez le voir et vous sentirez ce je ne sais quoi que le Tiguan procure. Volkswagen Scénic, quand on dit offre exceptionnelle, on le pense pour vrai.
En ce moment, c'est le Vendredi fou chez Rona. Et qui dit Vendredi fou dit nos meilleures offres de l'année.
Genre sur
bien des produits.
Impossible. Pas sur les lumières de Noël Lendon & Co. sélectionnées.
À 50% de rabais?
Ben non. Puis les toilettes allongées deux pieds. Spezia, elle.
À 50% aussi?
Ah ouais, puis le rouleau de peinture aromatisé?
Hey, arrête d'inventer des affaires, on n'en vend pas de ça.
Je te testais.
Ah! Profitez de ces offres-là jusqu'à mercredi durant le Vendredi fou chez Rona. Des conditions s'appliquent, plus d'offres au rona.ca.
Saviez-vous que Vacances Sunwing offre des forfaits tout inclus pour le Panama au départ de Québec? Visitez décollerdequebec.ca ou consultez votre conseiller en voyage.
Québec, Rock City, Boulevard 102. Maintenant, 100% parlé en semaine. Le week-end, le meilleur rock. Des années 90 à aujourd'hui. Le garage à Dan, le boulevard du rock. Le rock and chill, le rock à mat. Boulevard 102.1, la meilleure musique de la business. 102.1. Le midi, on en jase. À Boulevard 102.1.
Mais j'avoue que mettre des gants blancs pour ce genre d'exercice, c'est une idée qui ne me viendrait pas.
Jusqu'à 14h, on en jase.
Exactement 13h16, vous êtes à l'antenne de Boulevard 102.1, 418-971-1021 pour réagir à l'émission On en jase. Et Pascal, c'est le mois Movember, c'est le mois de novembre, les gens se font pousser la moustache, ça termine dimanche. Et là, on a eu une mauvaise nouvelle d'un artiste qu'on aime beaucoup.
Oui, en fait, quelqu'un qui est dans notre écran pour plein d'affaires, autant comédien qu'animateur et tout ça, Bruno Blanchet, qui est atteint d'un cancer de la prostate. Alors, il a publié un long message Facebook pour faire part de cette nouvelle-là qui est très triste. Il l'a fait pour ses abonnés, pour être transparent sur les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a 2 heures en fait. C'est intitulé « Un nouveau combat », puis on le voit dans une vidéo avec laquelle il prend part à de nombreuses courses à pied. Mais ce qu'il fait, en fait, c'est un son de cloche pour les gens en termes de dépistage, de prendre soin de sa santé. Il dit qu'il est entre de bonnes mains pour guérir, qu'il va guérir et qu'il y a d'excellents médecins. Mais il dit « Et j'arrive à m'en sortir avec les soins hospitaliers. C'est un peu compliqué, par exemple. » Il dit « Pour un étranger, sans aucun doute aussi, c'est très coûteux. On est chanceux à la maison d'avoir la carte soleil pour nous aider avec tout ce qui est maladie. Par contre, il dit, j'ai hâte d'être sur pied. Il a 61 ans, hein, cancer de la prostate. On lui souhaite bonne route dans ce combat-là.
OK, oui, on souhaite bon succès contre le cancer à Bruno Blanchet, qui nous revienne en santé.
Oui, puis c'est avec un test sanguin pendant un examen physique annuel.
Oh, c'est intéressant, ça.
On a su qu'il y avait cette minuscule tumeur-là sur sa prostate. Il dit, le dépistage d'un cancer, c'est jamais trop précoce.
Non, en effet, il a entièrement
prenez
raison.
Prenez soin de vous, messieurs.
Oh que oui, on s'en va justement rejoindre un monsieur, notre chroniqueur en politique municipale, Irénée Rutema. Irénée, comment vas-tu?
Ça va super bien, merci. Bonjour à vous. Mais je pense qu'il y a une invitée, je la salue également.
Oui, exactement. Véronique Thibault, maman de la petite Jasmine, là, à qui on va parler après ta chronique, Irénée, une histoire invraisemblable, malheureusement, de système de santé non efficace. Irénée, c'est à Lévis, Stephen Blainey va avoir de la misère. Même pas va avoir de la misère. Ne sera pas capable de respecter sa promesse de taxe municipale en bas de l'inflation. Ben, du côté de Bruno Marchand, c'est mission accomplie. Ça sera 1,9% d'augmentation de taxes et ça va être confirmé mercredi prochain.
Oui, écoutez, vous savez, pendant la première campagne de M. Marchand, donc Mme Savard l'avait traité Marchand de taxe et visiblement, il gère bien notre ville, il est efficace. Et aussi, 1,9% en dessous de l'inflation, c'est vraiment très, très bonne nouvelle, doit s'en réjouir. Et j'ai l'impression, parfois, les gens sous-estimaient Marchand parce que beaucoup le traiter avec un peu de hauteur, puis de comme c'était un travailleur communautaire qui ne savait pas gérer, qui ne savait pas compter. Et ça m'a fait penser à un politicien que j'aime beaucoup qui s'appelle Barack Obama. Mm-hmm. Beaucoup de gens, parce que c'était un avocat, mais il a travaillé dans la communauté pendant longtemps. Et plusieurs personnes du Parti républicain donc le regardaient de haut, mais finalement, il a été un bon président. Mais ce qui est plate avec monsieur, le nouveau maire de Lévis...
Monsieur Blainey.
Oui, généralement, un conservateur doit baisser les taxes, doit baisser les impôts. Et là, il est acculé sur le dos du mur et c'est plate pour lui. Et là, ce que je ne comprends pas, est-ce qu'il avait les chiffres exacts quand il a fait des promesses aux citoyens de Lévis?
Ouais.
Ou est-ce qu'il est arrivé? Parce que souvent, les politiciens, il y a une game politique et il arrive souvent que les politiciens font des promesses, et quand ils arrivent au pouvoir, ils disent « Ah, on a hérité d'une surprise, on n'avait pas vu venir, mm-hmm. et finalement, on ne pourra pas respecter nos engagements. » Et lui, il est tellement mal pris parce que les villes ne peuvent pas faire des déficits.
Exactement.
Donc, il ne peut qu'augmenter les taxes, il ne peut que... donc, les gens vont être mécontent, l'économie ne va pas bien aujourd'hui, c'est l'incertitude, alors il doit se battre dans l'eau bénite comme un diable, finalement.
En
Et
effet.
Ce qui est plate, on en avait parlé, là, c'est que l'ancien maire s'en est sorti parce que lui, c'était un politicien, expérimenté, vétéran. Et les histoires ne sont pas sorties sur la place publique parce que le troisième lien est le sujet des sujets sur la rive sud. Et il était constamment dans les médias en critiquant vertement la CAQ sur ce sujet. Et je pense que ça a dû éclipser les mauvaises nouvelles économiques.
Ça a éclipsé énormément de choses. Une hausse de taxes résidentielles de 7,7% en 2024. Un moratoire en 2025 sur la construction. Et ça part du moratoire, le trou budgétaire à Lévis, parce qu'on est obligé de retirer la surtaxe sur les terrains vacants. Ça rapportait 12,8 millions de dollars à la ville. Donc, on doit se priver de ça. C'est ce qui donne le trou actuellement de 13,6 millions de dollars. Donc, à la question, est-ce que Stephen Blainey aurait pu le voir venir? Oui. Donc, ça me prouve que Stephen Blainey n'était peut-être pas au courant de ce qui s'était fait à Lévis dans les dernières années, Pascal Sévé. C'est ça qui est arrivé.
Soit ça, mais tu sais, en même temps, mettons, quand le maire Leoli a décidé que c'était terminé pour lui, l'ex-maire Leoli, maintenant, il aurait-tu dû être un petit peu plus transparent sur ce qui se passait, sachant qu'il avait mené sa ville à le réélire, et qu'il savait qu'il n'allait pas se représenter. Mm-hmm. Il ne peut jamais être certain que sa dauphine va être élue. À partir de ce moment-là, peut-être qu'il se doit d'une transparence supplémentaire envers ceux qui lui ont fait confiance, qui lui ont donné le mandat.
Je suis d'accord.
Et le prédécesseur, celui qui va suivre. Est-ce que ça peut encore se faire? La réponse est oui. Ce serait intéressant que M. Leoli le fasse.
Oui, Irénée, tu es d'accord avec Pascal, toi aussi?
Oui, je suis d'accord avec lui à 100%. Et, sauf que, monsieur, pour ajouter à l'explication, et quand il y a eu un sondage en janvier 2025, je pense que c'était Somme le soleil, et le taux de satisfaction des gens de Lévis était à 62%.
Mm-hmm.
Alors, j'ai l'impression qu'ils voulaient sortir avec honneur, avec prestige, avec respect, en n'étant pas transparent. Et vous savez, la mémoire politique est très, très courte. Je pense que les gens vont payer les taxes et ils vont pardonner à M. Laurier. Mais c'est M. Blainey qui est pogné.
On a juste arrêté. Par contre, on me dit à l'usine de faire couler la statue de bronze de Gilles Laulier. Là, on a stoppé ça. Là.
Oh, okay.
On était rendu aux genoux et on a arrêté.
C'est ça, on a arrêté ça. Hey, René, deuxième sujet avec toi que je vais aborder. Est-ce que Stéphane Lachance est en manque de crédibilité? Parce qu'il sort dans les médias, il dit « Je veux rencontrer Joël Lightbaum pour le financement sur le tramway. » Ça fait de ça 5-6 jours, puis Joël Lightbaum n'a même pas pris l'appel téléphonique, il n'a même pas retourné le message qu'il a reçu. Donc... Ça va être difficile pour Stéphane Lachance de sortir, de devenir un politicien crédible après avoir été un militant anti-tramway aussi virulent.
Oui, écoute, Monsieur Lachance donc reprend ses services anti-tramway. Donc, il a montré les dents cette semaine. Il a bombé ses muscles en demandant une rencontre avec Joël Lightband pour, écoutez-moi, avoir l'heure juste. Et il accuse Marchand de manipuler les faits d'une manière qui entretient la confusion sur l'engagement réel du gouvernement fédéral. Et ce que je trouve malheureux de M. Lachance, c'est qu'il veut forcer la main du ministre, donc Joël Lightband. Donc, imaginez-vous, il arrive dans la rencontre avec M. Lightband, il dit « Écoute, donnez-moi les chiffres exactement aujourd'hui. » Mais c'est sûr que le ministre ne les a pas aujourd'hui. Ce qu'il aurait dû faire, au lieu de c'est comme si moi j'ai l'impression qu'il posait un ultimatum au ministre. Il aurait dû dire, écoutez, on va se rencontrer pour une première rencontre, on va apprendre à se connaître, une rencontre de travail, et ne pas forcer le ministre parce que Monsieur Lachance, il n'est pas en position de force. Aujourd'hui, il a perdu l'élection, mais ce Marchand a gagné d'une façon importante. Alors, quand il va rencontrer Monsieur Lightband, il ne sera pas en fonction de force. Et moi, ce que je crois, le tramway, le financement est complexe, mais je compare ça à un contrat de mariage. Donc, le mariage aura lieu. Et les gens s'aiment, Lightband est pour le projet, le gouvernement fédéral des libéraux est pour le projet. Même monsieur le chef du parti conservateur qui est venu à Québec, il a dit le tramway va se faire. Alors, le mariage aura lieu. Il ne reste que les détails qui seront réglés par les avocats. Alors, je pense que monsieur Lachance n'a aucune chance de contrôler l'agenda de monsieur Lightband, qui est ministre efficace, que je connais depuis le secondaire. Ce jeune homme-là, là, il est habile, il est brillant, il maîtrise les codes politiques. Et je pense qu'il n'aimera pas ça que je le dise aujourd'hui. Mais je dis que, par exemple, ce jeune homme-là, là, je pense qu'il pourrait être premier ministre du Canada.
Oh, c'est une grande prédiction d'Irénée Rutemont. On retient ça, Pascal Sévé. 28 novembre, 13h27, Irénée nous dit « Joël Lightband va être le futur premier ministre du Canada ». Irénée Rutemont, toujours un plaisir de te parler. Je te souhaite un excellent week-end.
Merci, bonne fin de semaine à vous trois.
Salut, bon week-end. C'était Irénée Rutemont, chronique politique municipale qu'on a chaque vendredi aux alentours de 13h. On fait exactement, passe à un autre sujet. Un sujet qui vous a touché énormément lundi quand j'ai présenté des extraits d'une entrevue que j'avais fait avec Véronique Thibault, maman de la petite Jasmine, aux prises avec des problèmes pulmonaires. Depuis sa naissance, Jasmine a maintenant 2 ans et demi et Véronique vit un véritable calvaire avec notre système de la santé. Véronique Thibault est avec nous aujourd'hui en studio. Bonjour Véronique, comment vas-tu?
Oui, bonjour, ça va bien.
Oui, ça va bien. T'allais à Montréal, tu m'avais raconté ça dimanche dernier, que t'allais à Montréal voir un spécialiste lundi. Jasmine se faisait enlever les amygdales pour une deuxième fois mardi. Comment la semaine s'est passée?
Oui, ça a passé comme une boule de feu, on va dire.
Oui.
C'était assez intense. Donc, dimanche, on est parti, on est allé voir à Montréal là, pour lundi matin le docteur Shapiro, qui est un spécialiste des maladies pulmonaires pour les enfants. Et il n'a pas été en mesure de nous donner la réponse que j'espérais tant, avoir un diagnostic. On est de retour à la maison avec encore les mêmes questions pour pouvoir officialiser là, si elle a ou non la maladie rare qui s'appelle la dyskinésie ciliaire primitive. Il y avait des tests plus poussés à aller faire qu'elle ne pouvait pas subir cette journée-là de lundi puisqu'elle avait une chirurgie le lendemain. Et il va nous revoir le 1er juin 2026. Il va falloir retourner à Montréal pour aller faire les examens pour avoir la réponse.
En juin seulement?
Oui.
Il me semble que c'est long en termes de temps puis de laps de temps.
Effectivement, de ce que je comprends, c'est que la maladie est tellement rare et diagnostiquée plutôt à partir de 3 ans à 5 ans. Là. Pour les enfants plus jeunes que ça, C'est plus difficile au niveau des examens qu'ils doivent effectuer, là, d'avoir la collaboration des enfants aussi.
OK. Je comprends très bien. Elle s'est fait enlever les amygdales mardi. Est-ce que ça s'est bien passé?
OK, exactement. Mardi matin, on était au CHUL pour une deuxième fois son amygdalectomie. Initialement, elle s'est fait enlever la première fois en décembre dernier, donc en 2024. C'était une technique laser, la coblation, qui appelle. Normalement, tout se passe bien après ça. Malheureusement, pour une raison mystérieuse qu'on n'a pas de réponse, ces amygdales ont repoussé, mais ont repoussé de façon vraiment rapide sur plusieurs semaines. Donc, en juin, elle avait eu une intervention au niveau des poumons. Et on n'a pas constaté à ce moment-là qu'elle avait d'amygdales. En octobre, on a vu qu'elle avait ça, puis elle s'est fait enlever là, cette semaine, mardi matin. La chirurgie s'est bien passée. Ils ont fait ça à l'ancienne, comme on appelle. C'est un peu plus souffrant pour ma fille que de le faire au laser. Puis elle avait vraiment des amygdales linguales, donc dans le bas, suspendues dans le fond de sa gorge. Puis elle avait d'autres, ils appellent ça bilobaires, donc d'autres petites amygdales là, qui étaient comme des petits lobes dans le fond de sa bouche aussi. C'était assez intense.
OK. Et là, présentement, comment elle se porte à la maison?
Elle a quand même beaucoup de douleurs. Là, on a une infirmière à la maison, une amie de la famille là, qui s'en occupe pendant que je suis ici. Mm-hmm. Mais pour l'instant, là, je ne ferai pas de commentaires supplémentaires sur son état.
Est-ce que, tu sais, parce que là, l'inquiétude, c'est toujours une accumulation, on ne comprend pas, on se sent un peu laissé pour compte dans tout ça. Il y a sûrement une strate de vous qui dit, bon, on est laissé pour compte parce que même les spécialistes ne sont pas convaincus, ils font face à quelque chose qui est inhabituel, qui est même peut-être nébuleux. Mais d'un autre côté, il y a quand même des filets de sécurité qui pourraient être un petit peu plus déployés, peut-être pour vous sentir bien pris en charge, avoir des réponses à vos questions. Est-ce qu'on se trompe aussi à ce niveau-là? Il y a une négligence de ce qui est apparent?
Oui, j'ai l'impression que ça fait des mois que je le mentionne à l'hôpital, qu'on n'a pas de chef d'orchestre sur le dossier de Jasmine pour aller organiser tout à l'interne, tous les rendez-vous, les besoins, tout ça. Et quand on regarde un peu le dossier qu'on a passé, qu'elle a perdu la pédiatre qui lui avait été attitrée l'année dernière, qui n'a pas transféré le dossier, fait que c'est un peu le chef d'orchestre qui quittait. Après ça, elle a eu sa chirurgie en ORL en décembre. L'ORL a aussi pris sa retraite le mois suivant. Puis il a fallu que je refasse la liste d'attente pour avoir un autre ORL, mais je n'avais pas été mise au courant. Tu sais,
qui n'était plus sur la liste.
Oui, c'est ça, exactement. Mais c'était des délais un par-dessus l'autre. Puis effectivement, que je ne comprends pas pourquoi le dossier à Jasmine tombait toujours par malchance dans tous ces cracks-là et qu'il n'y avait personne pour le prendre en charge. Le seul qui essayait, c'est son pneumologue qu'on a actuellement, qui fait tout ce qu'il peut, mais puisqu'il est seul, les demandes qu'il fait, il est aussi pris dans les délais tels que l'IRM. Initialement, l'ORL numéro 1, où la pédiatre qui est partie, aurait dû faire cette demande d'IRM-là. Mais là, on se ramasse que c'est le pneumologue qui fait cette demande d'IRM-là que 6 mois après, parce qu'on lui dit, bien, il faut qu'on continue, tu sais, qu'on avance dans le dossier, mais qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre? Donc, c'est ça, là, on en est rendu là. D'ailleurs, parlant d'IRM, j'ai reçu une date, une confirmation, le 11 décembre. Ma fille aura son IRM.
Ah, bon, bien ça, c'est une bonne nouvelle, mais ça vient tard hein, dans le processus, parce que ça fait quoi depuis cet été que vous attendez cet IRM-là?
Exactement, depuis le mois de juin initialement. Puis ça a été des délais épouvantables. Puis pour avoir des réponses, il a fallu que j'appelle en imagerie médicale au CHUL, que je laisse des messages, qu'on me rappelle, que je passe par le commissaire aux usagers pour savoir sur la liste ma fille était rendue où, puis comment on pouvait aussi faire évoluer ça, comment, tu sais, c'est quoi les choix en tant que parent? Moi, est-ce que je dois juste attendre que l'hôpital m'appelle? Mm-hmm.
Ou je deviens quirulante en rappelant puis en faisant le suivi. Puis j'ai pas le goût d'être quirulante parce que j'ai pas le goût d'être la persona non grata, tiens,
exactement,
dans le système. Puis il y a de quoi que je saisis mal parce que, Jeff, on parle souvent de ces histoires-là des gens de notre communauté. Puis beaucoup de personnes disent, quand on est... C'est long d'entrer dans le système de santé, d'être prise en charge et tout ça, mais à un moment là où on est prise en charge, bien, tout se fait autour de nous. C'est comme si le château de Lego se construit puis on n'a plus vraiment d'inquiétude. Pourquoi est-ce que, de votre côté, il ne se construit pas le château de Lego autour de Jasmine?
Je n'ai aucune idée. Puis pourtant, je suis une maman proactive. J'ai essayé de faire transférer. Tu sais, notre médecin de famille était parti en arrêt maladie à l'UMF. Toute l'administration rend tout compliqué. Fait qu'en fait, quand on a demandé de faire transférer un autre médecin, bien, on ne pouvait pas parce que notre médecin, on était encore sur sa liste. Sinon, on retombait dans le gap. Si on retombait dans le gap, on avait 4 ans d'attente. Après ça, la pédiatre, bien là, on avait une demande qui était active au CHUL, mais ils ne l'avaient pas pris en compte. Fait que moi, j'ai passé par mon bureau député pour avoir des réponses. Et malheureusement, les réponses qu'on a reçues, ben, c'était pas celle que je pensais qu'elle allait pouvoir nous aider.
Oui, c'est ça, c'était bon, les délais d'attente sont normaux. On est dans le processus.
T'sais. On s'est fait dire que Jasmine avait une prise en charge qui était inscrite dans le dossier, puis qu'eux, tout allait suivre son cours. Mm-hmm. Mais pourtant...
Alors que Jasmine a besoin de cette IRM-là pour qu'on fasse cheminer son dossier médical à bon escient. Véronique, je veux parler avec toi également, parce qu'on parle de l'aspect stress que notre enfant est malade, qu'on ne sait pas ce qu'elle a. Bon, j'ai fait jouer des extraits justement lundi où tu parlais que ta fille devient bleue la nuit, puis il faut que tu la réveilles, puis tu y sauves la vie en tant que telle à chaque nuit. Mais l'aspect plus financier, toi, là, t'occuper de Jasmine, tu ne dois pas pouvoir travailler.
C'est sûr que j'ai dû réduire mon horaire de façon drastique dans les deux dernières années. En fait, je suis coiffeuse de profession, donc j'ai quand même une certaine liberté en tant que travailleur autonome pour modeler mon horaire. Mm-hmm. C'est sûr que c'est pas l'idéal de toujours déplacer les clientes. Par chance, elles sont très conciliantes, puis il y a personne qui va s'assiner. Mais là, l'autre point, c'est que moi, en tant que travailleur autonome, j'ai pas droit à l'assurance salaire. Tu sais, je suis un peu bloquée, donc je fais ce que je peux, mais j'ai aussi fait des demandes pour des allocations supplémentaires au niveau du gouvernement. Il y a plusieurs paliers disponibles pour les enfants handicapés qui nécessitent des soins exceptionnels. C'est très complexe. C'est un univers des 12 travaux encore là. Vraiment compliqué d'avoir accès à de l'information. Ils ont pris 11 mois à répondre à ma demande initiale.
Puis, est-ce qu'ils ont donné un oui au moins?
Je tombe en demande de révision pour certains aspects là, du dossier qui ne sont pas encore clairs pour eux, puisque Jasmine, elle n'a pas de diagnostic.
Ouais. C'est épouvantable. Jasmine n'a pas de diagnostic parce qu'il n'y a pas d'IRM, parce qu'il n'y a pas de pédiatre, il n'y a pas de... J'ai trouvé ton image très bonne, là, de château de Lego autour.
On Exactement. Entend aussi dans le discours une médecin de famille qui est partie en congé maladie. On entend des gens qui ont quitté le bateau par conscience de leur propre état physique et mental.
Véronique, son conjoint, continue à payer des taxes, des impôts. Puis là, ben, à cause qu'elle ne bénéficie pas des services qu'elle devrait bénéficier, elle n'a pas le droit à l'allocation pour aide aux enfants handicapés. Ça n'a pas de sens comment le système ne fonctionne pas dans cette histoire-là.
C'est combien sont échappés là-dedans? Là, on parle d'une condition d'une jeune fille, d'un enfant malade à ce moment-là, d'une famille qui se dit hey, « moi, ma solution » et qui n'est peut-être même pas une solution, mais au moins une idée que j'ai, c'est de parler dans les médias parce que je ne me sens pas écoutée. Ça doit prendre énormément de temps de réflexion avant de se lancer dans les médias pour une histoire
oui,
comme ça.
Oui, je pensais depuis l'été, j'avais fait des petites capsules vidéo dans mon téléphone que je me disais « de quelle façon je vais apporter ça pour que ça soit bien perçu » aussi, parce que je ressentais le besoin de partager toute cette espèce de chaos-là dans lequel je me trouve. Puis je suis pas la seule, effectivement, en tant que mère, à avoir un enfant malade. Puis il y en a sûrement qui restent à la maison sans savoir quoi faire. Mais, tu sais, on peut parler aussi, là.
IRM, le 11 décembre, c'est quoi les étapes après? Là? Est-ce qu'au moins ça va débouler? IRM, on s'en va avec le pneumologue, la nouvelle médecin de famille, puis Erigo, là, on commence enfin, justement, à regarder vers l'avant de façon plus positive, là, puis je le mets en guillemets?
Ça dépend toujours des résultats de l'IRM. On ne sait pas ce qu'on va trouver. Il y a plusieurs suppositions. Par contre, là, tant qu'on ne l'a pas fait, bien, on ne peut pas se situer là-dedans. Mais par contre, en ce moment, puisqu'on a vu le spécialiste lundi dernier à Montréal, lui considère quand même que les traitements respiratoires doivent être faits comme si elle avait la maladie.
OK.
Donc, elle reste minimalement jusqu'en juin et plus, sous traitement respiratoire de nébulisation hypersonique de salin, 2 à 4 fois par jour. Puis elle va aussi avoir des traitements antibiotiques préventifs là, 3 fois par semaine qui vont s'ajouter à ça pour être sûr que ses poumons ne subissent pas de dégradation, peu importe la raison qu'il y aurait, que ça soit dans sa bouche, dans ses poumons, une maladie, peu importe. Mais on ne veut pas que Jasmine elle aille encore moins bien. Là.
OK, fait qu'on lui donne ce traitement-là en sachant que c'est pas nécessairement peut-être le bon traitement pour elle, mais pour s'assurer qu'il n'y a pas de complications.
Actuellement, elle est quand même reconnue comme une enfant. Il y a un asthme chronique sévère. Donc, de toute façon, si on arrête les traitements, elle va faire des complications, des pneumonies, et elle peut avoir des lésions sur ses poumons. Elle a déjà un lobe partiellement affaissé. Il n'y a pas de lésion sur son lobe moyen. Mais, tu sais, on voudrait pas en arriver là avec des cicatrices qui laissent des choses. Fait que non, effectivement, on va aller vers un traitement qui va être plutôt préventif, qui n'aura pas de danger. Puis au moins, on va être sûr qu'elle ne développera pas de maladie. Puis comme on appelle ça, elle est à la garderie, elle a 2 ans et demi. Lorsqu'elle peut aller à la garderie, bien, elle est en contact avec tous les virus. Ils appellent ça les garderites. C'est tout ce qui finit en it. Et donc, ça va au moins protéger ses poumons, tout ça, qu'elle n'en ait pas d'autres. Parce qu'actuellement, de mémoire, j'ai calculé vite, elle a été minimalement 7 fois hospitalisée en plus de ses chirurgies. Et elle a eu plus d'une dizaine de pneumonies. Elle a juste 2 ans et demi.
En terminant, Véronique, est-ce que tu penses peut-être à des recours judiciaires envers notre système de santé?
Non, pas actuellement. Non. Je veux des réponses, puis je veux aussi que les enfants qui attendent des IRM tels que Jasmine puissent avoir accès à ça. Tu sais, le CHUL, il fait quoi avec ça? Ils savent là, qu'ils passent 20 enfants par semaine. Là. C'est 4 par jour sous sédation. Fait que c'est 8, non, c'est ça, 20 par semaine. Donc, s'il y a une liste de 500 enfants actuellement, là, puis qui doivent passer en 90 jours ou moins, bien, ça ne marche pas dans les chiffres.
Non, c'est ça, ça prend des plans B puis des plans C.
Puis là, j'ai été appelée, là, probablement parce que j'ai passé dans les médias, pas parce qu'ils sont rendus au numéro de ma fille, mais ça, c'est gênant, là.
Malheureusement, ça se peut. Mais malheureusement. Ben
oui. Malheureusement. J'ai dit oui, parce que, tu sais, depuis le début, notre histoire est en chaos, là. Mais les autres enfants malades, là. Il nécessite aussi des soins. Oui. Puis ces examens-là. Qui fait quoi?
En effet, tu as entièrement raison. On pense à tous ces enfants-là, justement. Véronique, on se tient au courant.
Merci
d'être venu nous voir. Ça fait plaisir. On se tient au courant. C'est Jamais me faire signe, tu as mes coordonnées. Ça va nous faire plaisir de continuer à mettre de la pression sur notre gouvernement.
Absolument.
Pour toi et avec toi.
Ça marche. Bon vendredi.
Hey, merci. Bon week-end. Prends soin de la petite Jasmine. On pense très, 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 très fort à elle. Merci beaucoup. Après la pause, Pascal, on va faire des petites nouvelles qui se sont passées sous le radar pour terminer cette belle émission avant le week-end.
Avec plaisir.
Et puis j'en ai une de sport pour toi.
Ah, pour vrai?
Oui!
T'as décidé de me relancer.
J'ai assez hâte. On parle de ça après cette courte pause à l'émission On en jase sur Boulevard 102.
On en jase jusqu'à 14h. On en jase à Boulevard 102. Jeff Fortin, Pascal CV et leurs collaborateurs te racontent l'actualité. Boulevard 102.1.
On en jase sur les ondes de Boulevard 102.1 qui tire à sa fin avec Jeff Fortin, Pascal CV. Une autre super semaine de radio avec toi, Pascal CV. J'adore ça!
C'est vraiment partagé.
Cool, cool, cool. Pascal, c'est le retour de Gravel qui suit. On le rappelle, Richard Martineau, 17h, Québec-Montréal, Denis, Richard, Audrey, Véro. Et puis là, parlant de Québec-Montréal, tu sais qu'en fin de semaine au Colorado, on va vivre un Québec-Montréal? L'Avalanche Colorado va avoir les gilets des Nordiques
c'est
de
vrai,
Québec.
C'est vrai, c'est en fin de semaine.
C'est samedi, 15h. Et là, toute qu'une nouvelle que je viens d'apprendre, Pascal. C'est Stéphane Turcot qui a mis ça sur ses médias sociaux. Connais-tu Badaboum?
C'est la mascotte de qui, ça?
Badaboum, c'est la mascotte des Nordiques.
OK, bon, là, je voulais pas me tromper pour avoir la conne, mais peut-être que j'ai la niaiseuse, pareil.
Badaboum va être à Denver, au Colorado, demain! Va être des estrades pour amuser les enfants!
Ils vont la sortir des lignes.
Sorte Badaboum des lignes!
C'est une bonne idée. C'est-tu le costume authentique?
Le costume authentique, tout.
Excuse-moi, est-ce que c'est Badaboum authentiquement? Et non,
je sais pas si c'est le même que faisait Badaboum à l'époque, parce que c'est quand même une mascotte qui date de 1987. Regarde, là, tu vas la voir.
C'est pour les enfants que j'essaie de le dire comme ça.
Regarde, tu vas la voir de dos, là. Regarde, c'est Badaboum.
Ah, c'est bon! C'est très
Badaboum
bon,
mais et Youpi, là, ça.
Est-ce qu'ils vont réaliser la chance qu'ils ont? Ça, je pense pas, par exemple.
Je pense pas qu'ils le réalisent, mais waouh, j'ai assez hâte que la caméra de télé prenne Badaboum dans les estrades. Ah, je suis tout énervé.
Écoute, Jeff, je t'ai préparé un palmarès de nouvelles qui est tombé un peu dans les cracks du système parce que la politique nous occupe hautement. Ouais. Peut-être qu'on peut terminer l'émission avec ça.
Ben oui, let's go. Tu sais comment que j'aime ce segment-là.
D'abord, je sais pas si vous êtes complètement apeuré des reptiles, mais je vais vous apprendre quelque chose que vous êtes content de savoir actuellement et non au moment des faits. Mais il y a un serpent qui est égaré dans la nature à Sainte-Foy. Puis on cherchait à qui il appartenait, ce serpent égaré-là. Finalement, on a retracé son propriétaire. Pas par contre sans surprise, parce que c'est une boutique de Québec spécialisée en reptiles qui cherchait son propriétaire en croyant que le vertébré avait passé quelques jours en liberté. Or, il semble que sa cavale a été beaucoup plus longue. Donc, les propriétaires se sont manifestés. Ils ont fourni des preuves comme quoi le serpent en question a été en cavale très, très longtemps, donc depuis le mois d'août. Il était dans les rues et c'est ce qu'explique Maxime Pelletier, propriétaire du Terrarium, un refuge de longue date. Ça opère commerce depuis très longtemps. Mais c'est une citoyenne du boulevard Auclair dans l'arrondissement Sainte-Foy qui a fait la découverte du serpent la semaine dernière dans sa cour, en plein mois de novembre.
Tu dois faire un saut.
Hey, je sais pas, mais l'animal aurait possiblement passé plusieurs semaines en liberté dans un environnement qui n'était pas adapté du tout à son espèce, là, dans un genre de serpent brun orangé, très gros, beaucoup trop gros. On parle pas d'une couleuvre du tout. C'est un serpent des blés originaire du sud-est des États-Unis. C'est un tempérament curieux, peut-être pour ça qu'il est parti à la dérive sur les rues de Sainte-Foy, mais calme et inoffensif. La seule chose, c'est que même s'il est calme et inoffensif, il y en a plusieurs qui ne voulaient pas le côtoyer. Ah, il se nourrit essentiellement de souris et de petites bêtes. Vit dans des environnements humides qui varient entre 20 et 35 degrés. Voilà pourquoi on ne comprend pas comment à novembre, il a réussi à être dans nos
rues. Parce que là, c'est l'hiver dehors à moins 1 degré.
Ce n'est pas la première fois qu'un serpent des blés est retrouvé ailleurs que d'où il vient et où il devrait être, soit dans le terrarium. En novembre 2024, il y en a un qui avait été retrouvé dans le sous-sol d'une pizzeria de la rue Saint-Paul dans le Vieux-Québec. Trois petits points.
Ben, il n'avait pas trouvé de souris, fait qu'il avait faim.
Adolf Hitler a été élu Namibie. Savais-tu?
Non.
Adolf Hitler Uonoma, qui poursuit sa carrière avec un nouveau triomphe aux élections namibiennes.
On va souhaiter qu'il ait la pensée différente de l'autre Adolf Hitler qu'on a connu.
On espère que ça ne vient pas avec le nom, les façons de faire de la politique. Il a obtenu 92% des votes. C'est unanime.
Ça ressemble à un régime totalitaire, ça va pas bien.
En 2020, il avait remporté 85%. Alors, c'est encore plus de votes cette fois-ci pour Adolf Hitler, 59 ans, du côté de la Namibie.
Pas de Troisième Guerre mondiale, s'il vous plaît, M. Hitler.
On espère. L'Automax, il y a une montérégienne qui a gagné 100 000 $ et qui n'a rien déboursé. Elle n'avait pas de billet gagnant.
Comment elle a fait de gagner 100 000?
Puis on la voit brandir le chèque de 100 000 $ Elle s'appelle Marilyn. Marilyn San Pablo, grande gagnante du tirage du gros lot de la promotion Deuxième chance, rêver en grand. Ah. Ça avait lieu le 24 octobre dernier. Et officiellement, grâce à cette promotion-là, les détenteurs de billets du Lotomax peuvent participer à des tirages supplémentaires qui sont organisés sans avoir le billet gagnant. Donc, promotion qui permet à des gens de gagner un des 30 lots de 10 000 $ offerts chaque semaine, en plus du gros lot de 1 million de $ C'est ce qu'a mentionné la Société d'État. Donc, pour revenir à Mme San Pablo, là, elle achète régulièrement des billets du Lotomax, puis est tombée sur un appel de Loto-Québec qui l'a informée de la bonne nouvelle. Avec le montant remporté, elle dit qu'elle souhaite déjà rembourser son hypothèque puis gâter ses proches.
Oh, c'est donc un beau.
Pas très original, mais très bon choix, madame.
Excellent choix, excellent choix. Avec elle, c'était comme une date, dans le fond, qui n'avait pas réussi la première fois, mais ping! La date l'a rappelé, puis elle a dit « Finalement, je m'intéresse à toi. »
Exact.
Yes.
Puis peut-être dans les grandes terreurs de tous et chacun aussi, il y a eu un accident à Bécomo avec un manège. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire ça cette semaine, mais on dit que des barrières de protection auraient pu empêcher un accident à Bécomo. La CNESST a dévoilé les conclusions de son enquête sur des blessures subies par un employé de Beauce Carnaval. Alors, en mai dernier, les services d'urgence ont été alertés pour une victime heurtée par un manège en mouvement. Quand tu penses que t'es en sécurité dans un manège, même si tu te trouves un peu chambranlant, si tu trouves que l'espace est trop grand entre ton corps et la barrière, non, t'es pas en sécurité finalement parce qu'on a dévoilé que les résultats, il y a une erreur humaine qui est là-dedans. Puis aussi, autant aux commandes du dit manège que de la façon dont les barrières sont érigées, ça n'était pas assez conforme pour éviter les accidents.
Donc, ça veut dire que si j'ai peur, même si je m'assemble, je suis pas attaché, je le dis.
Oui. C'est ou t'embarques pas.
Ou j'embarque pas, tout simplement. C'est une très, très, très bonne idée. Pascal Sévich, je te souhaite un excellent week-end.
Ça me fait plaisir.
Profites-en à côté.
C'est vendredi. Ça me fait vraiment plaisir que tu me souhaites un excellent week-end. Toi aussi, passe-en un excellent.
Mais hein! Qu'est-ce que
tu
te fait très
bien? Tu me dis, je te souhaite un excellent week-end. Ouais. Je dis, ça me fait plaisir.
Ah, ben oui.
Ben, ça me fait plaisir, tu m'en souhaites.
Ben, mais c'est vrai que ça fait plaisir. 4-3 Lightning sur les Red Wings à l'heure actuelle. 2-0 Rangers sur les Bruins. Le Canadien joue à 16h à Vegas et à 15h, c'est les Bears de Chicago contre les Eagles de Philadelphie. Week-end du Thanksgiving américain. Profitez-en. Nous, on se reparle lundi à midi. Le retour de Gravel suit avec Denis, Audrey et Véro.
Ça fait plaisir.
Bye-bye. Ça fait plaisir.